Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Bonjour à tous et bienvenue dans le Rendez-vous Jeu, l'émission bimensuelle où on vous résume toute l'actu du jeu vidéo et de l'industrie du gaming. C'est parti! Tous et bienvenue sur le Rendez-vous Jeu, l'émission qui vous résume toutes les deux semaines toute l'actu du jeu vidéo. On parle de consoles, de PC, de mobile, de l'industrie, on fait des analyses, on donne des avis et tout ça dans la bonne humeur. Et je dis parfois dans la bonne humeur en n'étant pas très sûr de mon coup, mais aujourd'hui je sais que nous allons nous esclaffer et nous allons passer un bon moment ensemble parce que en plus de moi qui ne suis pas forcément le plus comique de tous les animateurs, Patrick Béja, j'ai avec moi deux joyeux lurons, à savoir Jika, dont vous entendez le rire juste à l'instant. Comment ça va, Jika ?
Bah, ça va. Écoute, on a la pression parce qu'on va se sentir obligé de faire des blagues et tout, mais on va essayer d'être sage quand même.
Écoute, l'avantage, c'est que si les blagues sont bonnes, bah, on rit. Si les blagues sont mauvaises, on se moque de vous et on rit aussi. Donc, ça
fonctionne. Dans les deux cas, on va rire, ouais.
C'est ça. C'est vrai. Et on a également Oscar qui nous rejoint, comme de temps en temps. Comment ça va, Oscar ? Oscar Lemaire et J.K. Loret, je devrais dire vos noms complets. Oscar, comment ça va ?
Ça va très bien, mais faut pas trop compter sur moi pour les blagues, je suis pas très doué pour ça.
Écoute, on se reposera sur toi pour les analyses alors, ça sera plus sûr comme approche.
Effectivement.
On a plein de sujets, c'est un épisode qui va être assez plein. On va parler de ce qui a été annoncé au X018, qui est l'événement de fans de Microsoft pour célébrer la Xbox et ceux qui y jouent. Il y a eu quelques annonces intéressantes et quelques rumeurs surprenantes sur une Xbox One sans lecteur de disque qui arrivera en 2019, on va en parler. L'autre grosse news, c'est que Sony ne sera pas à l'E3 et il y a possiblement plein de conséquences dont on peut parler aussi. On a une série de chiffres aussi hallucinants les uns que les autres dont on va parler, de résultats financiers, tout ça, mais comme toujours, pour en extraire les morceaux intéressants et oublier les trucs un petit peu chiants. Et puis, il y a plein de jeux qui sont sortis, il y a des jeux auxquels on a joué, et il y a une série de petites news en plus avec lesquelles on va conclure. Mais je vous propose de nous lancer immédiatement avec le X018, la fête de la Xbox, qui a eu lieu la semaine dernière à Mexico City, au Mexique. Je suis bon en géographie. Et il y a eu plein de choses qui ont été annoncées par Microsoft. La plus importante étant, je pense, la confirmation de l'acquisition du studio Obsidian Entertainment, qui avait été rumorisé il y a quelques semaines déjà, et à laquelle ils ont ajouté l'acquisition de In Exile Entertainment, qui est un petit peu le truc inattendu. Il faut se souvenir que, bien sûr, Microsoft a déjà annoncé l'acquisition de plusieurs studios à l'E3 de cette année. Donc, ils en sont à, je ne sais pas, ils doivent avoir en studio maintenant, en interne, entre guillemets, 8-9 studios qui vont travailler pour eux. C'est quand même une grosse news. Obsidian et In Exile, c'est des studios qui font très plaisir aux joueurs PC en créant des jeux qui sont très PC-centrés, des jeux de rôle occidentaux, classiques, limite hardcore. Qu'est-ce que... Toi, t'es un joueur PC, JK, un pur et dur. Qu'est-ce que tu en penses de cette annonce ?
Écoute, je suis relativement, enfin, je suis un peu partagé. D'un côté, je me dis que, bah, évidemment, l'histoire a prouvé que souvent, quand une grosse boîte rachète un studio, bah, ça se passe pas forcément très bien. Même Microsoft, ils sont pas exemple de défaut là-dessus. Hein. On se souvient avec Rare, par exemple, ce que Rare était à l'époque et ce que Rare est devenu, même si c'était il y a un peu plus longtemps. Voilà. Après, j'ai l'impression quand même qu'actuellement, ils sont dans une démarche assez saine au niveau de leur rachat. On va voir ce que ça va donner, notamment par exemple Ninja Theory. On va voir s'ils auront une créativité aussi forte que par exemple sur leur dernier jeu là.
Oui, Hellblade.
Hellblade, voilà, j'avais oublié. Et du coup, en fait, ce qui est plutôt chouette, c'est que j'ai l'impression que en faisant l'acquisition de ces deux studios, alors c'est vrai que t'as l'impression qu'ils font un peu doublon parce qu'ils font à peu près la même chose. Ils viennent à peu près du même terreau puisque tous ces gens-là viennent de Black Isle à l'époque quand il y avait les Fallout, les Planescape Torment, etc. Donc c'est vraiment la même origine.
Et les Fallout, pour ceux qui sont pour les plus jeunes de nos auditeurs, c'est pas Fallout 3 ou Fallout 4, hein, c'était des jeux très différents.
C'est les Fallout en 2D, en 2D isométrique, etc. Bref, mais j'ai l'impression qu'en faisant cette acquisition, ils s'achètent surtout des auteurs parce que ce sont des studios qui font pas forcément des jeux qui sont irréprochables de technique, en termes de même en termes de game design et tout, mais par contre c'est souvent des jeux extrêmement bien écrits, extrêmement intéressants, extrêmement intelligents dans l'écriture. Donc là vraiment on a l'impression qu'il se crée une sorte de super team de d'auteurs pour des RPG, je pense d'ampleur. Je sais pas si c'est pas avec toi que j'en ai déjà parlé, mais il y a quand même une rumeur insistante comme quoi Microsoft préparait un nouveau jeu Fable qui serait développé en partie par ceux qui font Forza, donc en termes d'open world on va dire qu'ils savent ce qu'ils font. On peut très bien imaginer des équipes d'InXile ou Obsidian en renfort sur l'écriture d'un jeu comme ça. Ça pourrait être très intéressant. Voilà. Après, Microsoft, je crois, se veut aussi rassurant, disons que tous les jeux qui sont actuellement en production chez eux vont sortir, genre Wasteland 3 est toujours en préparation. Voilà.
Et ils vont sortir en multiplateforme. Donc ils ne sont pas exclusifs Xbox, ouais.
Oui, en plus, voilà, c'est ça.
Je pense qu'après ça, on sera sur du Xbox PC exclusif.
Exactement, ouais. Fait. Voilà, donc c'est aussi une façon peut-être aussi de faire plaisir aux joueurs PC, entre guillemets, parce que maintenant, ce sont des studios qui, financièrement, sont toujours un peu sur la corde raide. Obsidian, par exemple, sans le succès de leur Kickstarter à l'époque du Pillars of Eternity, ils étaient très, très mal. Ils étaient même probablement morts si leur Kickstarter n'avait pas réussi, quoi. Donc c'est des studios, je pense, qui ont besoin, en fait, de cet appui financier. Qui sont pas suffisamment gros pour rester indépendants, ad vitam aeternam. En tout cas, ce n'est que mon avis.
Bah, c'est vrai que sur ce genre de truc, c'est des studios qui sont, quand tu dis sur la corde raide, ils fonctionnent très bien tant que leur jeu fonctionne, mais dès qu'il y en a un qui merde, on investit. C'est la manière dont fonctionne l'industrie du jeu vidéo. Dès qu'il y en a un qui merde, ça met vraiment le studio en péril. Donc, surtout pour ce genre de studio. Et je pense que tu évoquais Fable, je crois qu'il y a effectivement une possibilité que Microsoft demande aux studios, du coup, de faire des jeux un petit peu plus grand public, parce que c'est vrai que même si les jeux qu'on a évoqués sont des succès, c'est des jeux qui ont une communauté de niche, qui les aiment beaucoup, mais qui restent une communauté relativement...
En termes de vente, c'est sans commune mesure avec Halo ou Gears of War, etc., évidemment. Donc, voilà.
Donc peut-être se sortir un petit peu de leur zone de confort, prendre un petit peu plus de risques grâce au fait qu'ils puissent s'adosser à Microsoft. Ça veut dire peut-être des jeux un peu différents.
Et puis des moyens techniques qu'ils n'avaient pas jusque-là, en fait, tout simplement. Parce que les jeux Obsidian et InXile, c'est quand même des jeux techniquement qui sont un peu à la traîne, quoi, parce qu'ils n'ont pas forcément les ressources nécessaires. Quoi.
Je pense que juste pour en restant dans l'esprit de ce que vous dites, je pense qu'il y a globalement, à mon avis, c'est des studios qui avaient besoin de se faire racheter dans l'état actuel des choses pour la raison que vous avez citée, et puis parce que le problème c'est que on vit à une époque où les gros éditeurs font tout en interne. Ça devient de plus en plus rare des gros éditeurs qui collaborent avec des studios de taille relativement importante comme Obsidian par exemple. C'est-à-dire qu'Obsidian avant ils bossaient pour les éditeurs, quoi. Ils faisaient des projets. Ils ont bossé pour différents éditeurs.
J'ai évoqué Fallout. C'est eux qui ont fait Fallout New Vegas, non?
C'est eux qui ont fait New Vegas. C'est eux qui ont fait la suite de KOTOR, par exemple.
Exactement, ouais. C'est ça. South Park, le bâton de la vérité, c'était aussi.
Tout à fait, ouais.
Et encore, South Park, c'est un peu particulier parce que c'est un truc qu'ils ont fait à l'époque de THQ, qui a été racheté par Ubisoft. Pas THQ, mais juste le projet South Park. Et derrière, Ubisoft les a envoyés chier pour faire la suite, quoi. Ouais, donc, Donc il y a vraiment un côté, aujourd'hui, ça devient difficile pour eux de bosser avec des éditeurs, donc ils en sont réduits à faire des trucs uniquement en indépendant, et du coup, ça, je pense que c'est ça qui amène aussi cette situation compliquée, et ce qui fait que bah, pour rester un truc de taille relativement importante, ils étaient un peu obligés de passer par un rachat, et j'ai tendance à penser que même si... Comme Chica, je fais pas super confiance à Microsoft non plus, étant donné ce qu'ils ont fait par le passé. Mais en même temps, je pense que c'est toujours mieux qu'ils se fassent racheter par Microsoft que s'ils se font racheter par un éditeur. Enfin, tu vois, je pense que c'est ça aurait été une nouvelle beaucoup plus inquiétante d'apprendre qu'ils se fassent racheter par Electronic Arts, par exemple.
Ah oui, bah, en plus, Electronic Arts spécifiquement, qui a la réputation, c'est même plus. On flinguerait un Rare une fois de temps en temps, c'est ils flinguent des studios tous les 4 matins.
Voilà, c'est presque systématique. Ouais.
C'est vrai, mais c'est vrai aussi que pour faire des jeux ambitieux, c'est difficile d'être un studio indépendant. Il faut faire partie d'un groupe un peu plus large, ou alors être un indépendant vraiment. Et du coup, ceux-là, c'est vrai qu'ils étaient un petit peu entre les deux, entre deux eaux. Donc, en résumé, il n'est pas impossible du tout que Microsoft leur demande de faire des jeux qui sont différents de ce que fait leur ADN, de ce que leur impose leur ADN qu'ils ont depuis des années. Et donc, peut-être faire un petit peu, comment dire, faire moins plaisir aux fans de ces jeux spécifiquement. Il n'est pas non plus impossible que Obsidian se mette à faire des trucs un petit peu plus ambitieux, que In Exile reste sur des projets très core gamer, PC gamer, et les adapte à la console aussi, enfin à la Xbox, qui d'ailleurs récupère la compatibilité clavier-souris. Là, c'était une autre annonce de l'activation de cette compatibilité avec Fortnite et Warframe. Pour ceux qui se posent la question... c'est les joueurs qui utilisent le clavier et souris seront matchés contre d'autres personnes qui utilisent le clavier et souris. Donc, pour l'équilibrage, ça se règle comme ça. Et il y a d'autres jeux qui continueront à utiliser, qui commenceront à utiliser clavier et souris. À terme, chaque jeu doit l'implémenter l'un après l'autre spécifiquement. Donc, il faut que ça soit implémenté. C'est pas par défaut. On peut brancher un clavier et une souris et ça marche sur tous les jeux. Donc, ça doit être bien fait, en gros. Mais pour en revenir à Obsidian et In Exile, peut-être que ça va les faire changer un petit peu, mais c'est pas forcément systématiquement inquiétant. Bonne nouvelle ou mauvaise nouvelle, du coup, cette acquisition ?
Ah bah moi je pense que c'est quand même une bonne nouvelle pour eux, parce que on est à peu près tous d'accord, Oscar l'a redit, c'est probable qu'ils avaient besoin de se faire racheter. Oui. Après moi j'imagine quand même bien, étant donné l'ADN commun qu'ils ont, peut-être à terme fusionner pour devenir une sorte d'entité jeu de rôle chez Microsoft, tu vois. Aussi, donc est-ce que le nom va pas disparaître, est-ce que les noms Obsidian ou In Exile vont pas disparaître à terme, mais que les gens vont rester? Par exemple, typiquement Brian Fargo, je crois, le dirigeant d'In Exile, il me semble qu'il avait dit qu'il arrêtait après Wasteland 3, et depuis ce rachat, bah, il a annoncé que non, il continuait et qu'il allait rester chez Microsoft, qu'il était ravi, etc. Bon, tout le monde est très content, évidemment. Au moment du rachat, tout le monde dit ça, mais je pense que globalement, on peut quand même se réjouir.
Je crois qu'on est content pour les studios, effectivement, dans un premier temps. Ensuite, on verra. On peut jamais savoir ce que nous réserve l'avenir, mais on est aussi content pour Microsoft, qui confirme là encore son besoin de studio first party. Ils confirment qu'ils ont appris de leurs erreurs avec la génération de la Xbox One et ils font tout ce qu'il faut pour remédier à ça. Et je pense que ça nous prévoit une génération suivante assez excitante. Puisqu'on parle de génération suivante, on peut aussi parler de ces deux sujets qui vont presque ensemble. Pendant le X018, ils ont... Ah oui, entre parenthèses, je vais juste le mentionner vite fait. Crackdown 3 a été annoncé, enfin il a enfin une date de sortie, ça sera février 2019. Ils ont montré une démo de, on va dire une courte vidéo d'une partie en multijoueur en 5 contre 5 où tous les environnements sont destructibles de manière assez impressionnante. Et d'ailleurs Crackdown 1 est gratuit jusqu'à la fin du mois, donc si vous voulez aller le récupérer sur Xbox vous pouvez. Mais Crackdown 3 donc qui moi je dirais, autant les années précédentes, Crackdown 3, je me disais, c'est pas hyper intéressant. Là, la démo qu'ils ont montrée, c'était genre, ouais, pourquoi pas, peut-être. C'est pas que tout à coup, je suis devenu un super fan de Crackdown, mais n'ayant pas joué ni au 1 ni au 2, en même temps, ça me parle peut-être pas. Mais voilà, c'est un petit truc qui arrive en février, enfin. J'avais l'impression que ça sentait très, très, très mauvais avec ce qu'ils avaient montré jusque-là. Avec cette démo, c'est pourquoi pas, on va dire. Dans mon cas, en tout cas. Mais pour en revenir à l'important, ils ont énormément poussé le Game Pass. C'était vraiment, toutes les 5 minutes, il y avait une vidéo de présentation du Game Pass. Il est à 1$ par mois jusqu'à la fin de la période des fêtes, le Game Pass, à 1$ pour un mois plutôt, c'est plus juste de le dire comme ça. Il y a PlayerUnknown's Battleground qui est intégré au Game Pass désormais. Enfin, ils ont poussé le Game Pass à fond. Et on a aussi la rumeur selon laquelle Microsoft serait en train de préparer une version de la Xbox, Xbox One sans lecteur de disque qui arriverait au printemps 2019. C'est une rumeur de Thurrott.com, qui est le site de Paul Thurrott, un spécialiste Microsoft qui est généralement bien informé. Et Brad Sams a ses sources, le journaliste qui a... sorti cette info, et elle coûterait donc cette console moins de $200, a priori, c'est le but qu'ils essayent d'atteindre, et elle n'aurait pas de lecteur de disque, et pour avoir les jeux qu'on a déjà en disque, par exemple, il y aurait un programme qui accompagnerait cette opération, ce lancement, qui serait un programme où on peut amener chez les partenaires de Microsoft un disque et récupérer un code de téléchargement. Donc, ça serait un moyen de transférer nos médias physiques en médias DRMisés, ce qui me fait moi bien rire parce que du coup, on se retrouve avec les DRM les plus contraignants du monde, là où Microsoft, à l'origine, avec sa Xbox One, voulait assouplir un petit peu le DRM et rendre la possibilité de prêter des jeux ou de partager des jeux avec plusieurs personnes. Bref, c'est de l'histoire ancienne. Qu'est-ce que vous en pensez de cette rumeur et de cette console si elle s'avère effectivement exister ? Je me retourne vers Oscar peut-être. C'est cohérent d'essayer de faire baisser le prix de la console par ce biais ?
De toute façon, je pense qu'ils sont dans une phase d'expérimentation. Ils essayent plein de trucs et je trouve ça cohérent, quoi, surtout en cette période de fin de génération pour bien préparer la prochaine. C'est un bon moyen de. Je me demande vraiment s'ils sont pas en train de se demander est-ce qu'on retente le même coup que pour la prochaine Xbox qu'on avait tenté pour la Xbox One au début et ça s'était très mal passé. Est-ce que maintenant ce serait pas le bon moment? Mais quand même, on va voir, on va essayer des choses avec la Xbox One pour vraiment mesurer la température et pas refaire la même connerie, quoi.
Ouais. Il faut noter. Pardon.
Voilà, mais juste pour dire qu'au final, vu que c'est purement optionnel, c'est que ça remplace pas la Xbox One en cours. Je vois aucun problème à ça, quoi.
Et il faut noter également que il y a encore une version de la Xbox One S, donc la moins chère, la Xbox One classique Slim, qui serait retravailler pour en supprimer des éléments superflus pour la rendre moins chère aussi. Donc, ils ne travaillent pas que à une console sans disque, mais ils travaillent à une console aussi avec disque, un peu moins chère. Donc, effectivement, ils n'abandonnent pas du tout les joueurs qui ont besoin de disques, et il y en a, on le sait, mais c'est sûr qu'on est quand même très nombreux aussi à... si ce n'est ne plus acheter de disque, au moins ne pas en avoir forcément besoin. Et c'est vrai que ça pourra aussi être un précurseur à la fameuse prochaine génération Scarlett de chez Microsoft, qui serait basée sur à la fois le disque et le streaming. Et il n'est pas du tout impossible d'ailleurs qu'une console comme celle-ci, la Xbox One S sans disque, donc la Xbox One SD, pour 100 disques, ça marche, ouais, pas mal. La Xbox One SD se transforme en service de streaming pour la génération Scarlett. C'est tout à fait possible. Et si jamais il y a du matériel en plus sur la génération Scarlett qui fait qu'on en avait parlé, ça permettrait de réduire le lag, qui est le gros problème des services de streaming, peut-être qu'ils pourraient l'intégrer à cette version de la console, de manière à ce que ça se passe aussi bien que possible pour la transition, mais bon, là, on spécule complètement. Bon, JK, je pense que tu es à peu près du même avis. Pourquoi pas,
exactement.
Quoi.
Moi, je pense que tout ce qu'a fait Microsoft depuis plusieurs années va dans ce sens. Entre le Game Pass, le fait que les jeux soient disponibles à la fois sur Windows et sur Xbox, leur service de streaming qui a été dévoilé il y a pas si longtemps. Enfin, je veux dire, Microsoft va vers cette espèce d'épuration, entre guillemets, totale, où pour eux, ce qu'ils aimeraient, ce serait qu'on n'ait plus qu'une petite boîte sous la télé télé et que tu aies un PC ou une console, c'est pareil, tu as un compte, tu as tes jeux et tu, soit tu les streams, soit tu les télécharges. Donc cette possible console, ce serait une sorte de tremplin, de transition en tout cas vers la suite qui serait probablement une box, enfin une offre streaming, bien sûr, en parallèle d'une offre classique, quoi.
Et d'ailleurs, tu parles du Game Pass, c'est sûr que ça se synergise bien avec cette console. Moi, je pense que l'offre à 1$ pour un mois va pas s'arrêter à la fin de l'année, qu'ils vont le refaire régulièrement et certainement pour la sortie de cette console quand elle arrivera. Du coup, ça fait pour 200$, tu as accès à une centaine de jeux et peut-être plus à ce moment. Ça devient vraiment intéressant, même si après tu dois payer 10$ par mois ou 10€ par mois, ça reste quand même une offre hyper compelling, hyper intéressante, quoi, tout simplement. Donc,
compétitive, peut-être.
Compétitive, ou c'est un petit peu différent de compétitive, c'est que c'est un truc qui est intéressant pour quelqu'un pour dépenser son argent. C'est un truc que tu dis, ah bah oui, ça vaut l'argent que je mets là-dedans.
Ouais, ça vaut son prix. Oui, t'en as pour ton argent, quoi. Mmh. C'est
clair. Ouais, donc voilà, pas beaucoup plus que ça sur cette rumeur, mais c'est une rumeur qui est intéressante et qui effectivement continue cette idée de transition avec plusieurs types de machines et qui nous amène petit à petit. C'est l'idée que la génération prochaine sera une génération peut-être de transition, même si on n'a pas l'idée du streaming systématiquement avec ce type de machine. Là, on a quand même du stockage interne et donc on télécharge les jeux pour les jouer en local. C'est peut-être une transition. Et pour ceux qui disent, ah oui, mais tout le monde n'a pas cette connexion, voilà. Évidemment, c'est le cas. Mais souvenons-nous aussi qu'il n'y a pas si longtemps, sur PC, on achetait des boîtes avec des disques dedans. Aujourd'hui, c'est plus les versions collector qu'on expose chez soi que vraiment pour mettre le disque dans le PC et qui n'a plus de lecteur de disque d'ailleurs. Donc, c'est tout à fait possible et il y a plein de gens qui le font déjà. Parlons maintenant de Sony qui eux aussi ont fait une annonce un petit peu inattendue et cette annonce c'est que ils ne seront pas présents à l'E3 après avoir annoncé qu'ils ne feraient pas leur conférence de fin d'année, la PlayStation Experience, pour laquelle je m'étais dit ah oui mais si jamais ils ont un ou deux trucs à annoncer ils pourraient le faire aux Game Awards qui ont lieu à peu près en même temps, le show de Jeff Keighley. Là, vraiment, ne pas être à l'E3, ils n'y seront pas du tout. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de conférence et ils ne sont pas présents sur le show floor à l'E3. Donc, ils oublient complètement le grand événement, le plus grand événement de l'année, le plus grand événement vidéoludique. C'est vrai que d'autres ont fait quelques pas dans cette direction avant Sony, mais là, c'est un clean break, comme on dit, pour faire encore des anglicismes. C'est d'un coup, on n'y est plus. Et je pense qu'il y a deux interprétations. Soit les gens pensent que c'est une fois parce qu'ils n'ont pas énormément de choses à montrer, soit c'est carrément que Sony ne va plus être à l'E3. Ils vont suivre le modèle de Nintendo, par exemple, qui est de communiquer directement avec leurs joueurs.
Attention, Nintendo, ils sont à l'E3.
Oui, non, t'as raison. Mais c'est l'idée de la grande conférence, effectivement, et Nintendo, ils sont à l'E3, mais l'E3 est beaucoup moins important pour d'autres éditeurs, peut-être, parce qu'ils communiquent tout le temps. Mais t'as raison, ils y sont aussi, donc c'est encore plus drastique de la part de Sony. Quelle est l'hypothèse que tu privilégies, toi, Oscar, puisque tu prends la parole reviendra-t-il ou reviendra-t-il pas?
Et en fait, je pense que c'est je pense que c'est un peu les deux hypothèses que tu as. Moi, d'après quelques bruits de couleur que j'ai, là, en l'état, alors évidemment, ça peut toujours changer, mais en l'état actuel, ils reviendront pas. C'est pas à prendre, c'est à prendre avec des pincettes, hein, ce que je dis. Mais Et je pense qu'il y a aussi un... Parce que, en fait, le truc, c'est que il y a un truc qu'il faut comprendre, c'est que l'E3, ça coûte super cher pour les éditeurs. Mmh. C'est hors de prix d'avoir un salon à l'E3, mais aussi d'avoir même les salles... parce que en fait c'est un truc qu'on sait pas forcément quand on n'est pas allé à l'E3, mais il y a un étage avec des salles où c'est une ambiance beaucoup moins
la partie professionnelle, quoi.
Voilà, la partie professionnelle, mais où la presse y va aussi, mais c'est, on y va que quand on a des rendez-vous, en fait.
Oui, oui, et c'est ce que j'entendais par partie professionnelle. Ouais.
C'est très sobre comme coin, mais genre, même là, ça coûte une fortune pour avoir une salle sur place. Donc, ça coûte super cher pour les éditeurs, et je pense que tous les éditeurs sont assez remontés contre l'ESA qui organise le truc. Et je pense que c'est déjà pour ça que Electronic Arts est parti, tout en restant quand même en marge de l'E3, mais du coup... Sur un truc qu'ils organisent eux-mêmes qui doit leur coûter nettement moins cher. Et c'est pour ça, je pense pas que c'est vraiment une question de la conférence, mais plus du salon.
Juste pour expliquer, ils ont en fait une sorte de mini-salon dans un hôtel, qui se passe en même temps que l'E3, pour ceux qui s'en rendent pas bien compte, parce que c'est vrai que vu de l'extérieur, voilà, on comprend pas forcément. Et à proximité, juste à côté. Donc, c'est être à l'E3 sans payer l'ISA et l'E3.
Voilà, sans payer la fortune que demande l'ESA. Et je pense que Sony, en fait, à mon avis, je pense qu'ils se sont dit, voilà, on est dans une période où on n'a pas énormément de choses à montrer. Je pense qu'ils n'ont plus beaucoup de jeux qu'ils n'ont pas déjà montré, c'est-à-dire ils ont Death Stranding, ils ont The Last of Us, ils ont Ghost of Tsushima, mais en dehors de ça, à mon avis, ils n'ont plus grand-chose, sauf peut-être des petits trucs de prévus sur PS4, et je pense qu'ils commencent déjà à préparer la PS5. On a plein d'infos qui vont dans ce sens-là. Et du coup, je pense qu'ils se sont dit, voilà, de toute façon, la conf à l'E3, si on ne monte pas la PS5, a priori, ils ne vont pas la montrer, vu que la PS5 est... Enfin, les bruits de couleur, notamment de Kotaku parlent de 2020, donc ça serait un peu tôt de la montrer à cette E3-là. Du coup, ils se sont dit qu'ils allaient forcément avoir une conférence décevante, et que c'était le bon moment pour partir. Et à mon avis, ils vont faire un événement privé qui leur coûtera beaucoup moins à un moment donné pour annoncer la PS5. Et je pense que dans leur tête, à l'heure actuelle, ils se disent « on va continuer à faire uniquement des événements privés mais après, sauf si le SA revoit ses prix et change sa politique. » Parce qu'il y a aussi un vrai risque. Là, ils ont confirmé qu'à peu près tout le monde, en dehors de Sony et d'Electronic Arts, mais qui va sans doute rester encore à côté, seront à l'E3 pour l'E3 2019. Mais à mon avis, sur l'année prochaine, ça risque d'être plus compliqué, quoi.
Peut-être qu'ils vont revoir leur pratique, effectivement. Il y a un autre truc qui rentre dans ce cadre que tu évoquais du coût de l'E3, je pense, c'est aussi le fait que tous les studios qui montent quelque chose doivent préparer quelque chose à montrer. Et ça, dans le cycle de développement, c'est très coûteux en argent et en travail. Je pense qu'il y a de très nombreux développeurs qui pourraient nous dire « si je pouvais continuer à bosser sur le jeu plutôt que de créer une démo ou mettre en forme certains aspects du jeu pour pouvoir faire un gros trailer, machin, ça complique effectivement le développement. Moi, je pense que ils sont là, ils y sont pas parce que, comme tu le disais, ils ont trois gros jeux et c'est les trois gros jeux qui restent sur la PS4 et le reste, ça sera pour la PS5 l'année prochaine. Il me paraît compliqué. L'année prochaine, je veux dire, l'annonce de cette console risque de se faire l'année prochaine. Il me paraît compliqué quand même de pas y aller du tout l'année prochaine et les années suivantes, parce que ça reste un moyen d'avoir de la visibilité au-delà des joueurs un petit peu core gamers, parce que à l'E3 tout le monde parle de ce qui s'y passe et des grosses annonces, y compris les médias un petit peu moins spécialisés, et donc ça reste un bon moment, un bon moyen pour avoir des retombées ailleurs. Mais en même temps, on a vécu ça dans la tech, il y a eu de nombreuses sociétés qui se sont mis à ne plus aller au CES, à ne plus aller aux différents événements, gros événements existants, et à créer leur propre événement simplement avec une conférence de presse. Là, t'invites tout le monde. Peut-être que c'est gérable comme ça aussi, et t'invites aussi la presse généraliste. C'est sûr que si Sony t'invite... Mais disons que s'ils t'invitent pour annoncer la PS5, t'y vas. S'ils t'invitent, quand je parle de s'ils t'invitent, je dis, je sais pas moi, Le Figaro, Le Monde, ce genre de médias. s'ils t'invitent pour te remontrer un jeu qu'ils ont déjà annoncé ou pour annoncer un jeu, bon oui, The Last of Us 2 c'est important, mais on va peut-être pas le mettre en première page du Figaro. Alors que si c'est l'E3, eh ben, le Figaro va peut-être faire un gros papier sur l'E3 et mentionner ces trucs-là. Donc il y a une certaine visibilité qui vient avec l'E3 dont je ne suis pas certain qu'ils seraient tous prêts à abandonner. Mais bon, on ne sait pas vraiment. JK, oui, pardon, vas-y.
Pour rebondir sur ce que tu dis, je suis assez d'accord avec toi. Je pense que je pense néanmoins qu'il y a un côté genre révolte de tous les éditeurs et que je pense qu'ils ont envie de l'E3, ils ont besoin de l'E3. Je pense que Sony peut se permettre ça parce que c'est Sony. À mon avis, ils ont aussi mesuré la température avec leur PlayStation Experience, parce que je me suis toujours dit que le PlayStation Experience à cette période de l'année qui est toujours en décembre, c'était une date qui n'était pas très utile parce qu'il y avait les Game Awards qui leur donnaient déjà l'occasion de communiquer sur des trucs, etc. Donc à quoi bon mettre une autre conférence à ce moment-là? Mais à mon avis, le PlayStation Experience, c'était vraiment une manière de tester est-ce qu'on peut se passer de l'E3 avec notre propre événement à nous. Et maintenant, comme tu dis, les autres éditeurs peuvent pas forcément se permettre ça. Et je pense que même si on dit souvent que l'E3 c'est dépassé, etc., je pense que ça a un vrai intérêt d'avoir un moment qui regroupe toute l'industrie pour être une période. Enfin, on le voit sur toute la presse jeux vidéo, les audiences sont beaucoup plus fortes à la période de l'E3. Il y a un vrai intérêt du public pour ça.
Ouais, et puis c'est au-delà de.
Effectivement, ça serait bien que ça survive quand même l'E3, quoi.
Au-delà de l'intérêt pour les annonceurs et même de l'intérêt pour les médias, moi je crois qu'il y a pour les joueurs, pour l'ensemble de l'industrie et pour les joueurs, une sorte d'exaltation de c'est notre Noël, quoi. Comme je le dis chaque année, c'est notre Noël, c'est notre Super Bowl, c'est le moment où on est tous super contents de se rejoindre pour parler de la forme qu'a pris telle conférence et regarde, tel studio s'est planté en montrant ça, qu'est-ce qu'ils sont ridicules. Et il y a Sony qui a mis une église en et les gens pouvaient pas s'asseoir, c'était marrant, quoi. Et c'est le moment où on est tous en train de discuter de la même chose. Je pense qu'il y a une valeur là-dedans. Maintenant, il n'est pas garanti que ça ait une valeur pour les éditeurs et pour l'industrie elle-même, mais je crois que oui. Mais du coup, si on parle d'industrie, JK, là, c'est un boulevard ouvert à Microsoft cette année. Du coup, ils peuvent faire tout le bruit qu'ils veulent et annoncer des trucs.
Ouais, probablement, et peut-être que au précédent E3, ils avaient commencé à teaser la prochaine génération de consoles. Est-ce que du coup, ils vont pas un peu, sachant que justement ils vont être seuls à l'E3, est-ce qu'ils vont pas en profiter pour annoncer vraiment la prochaine génération de consoles, histoire d'avoir vraiment toutes les lumières médiatiques? Parce que effectivement, en plus, Sony, c'est vrai que traditionnellement depuis quelques années, c'était toujours un peu le point d'orgue des conférences E3, tout le monde attendait la conférence Sony, etc. Et du coup, il y avait un rayonnement médiatique sur le salon et sur Sony qui était quand même vachement, vachement là. Et effectivement, Microsoft, je pense qu'ils doivent être contents. Et en même temps, j'espère qu'ils vont avoir des gros trucs à annoncer du coup au prochain E3, parce qu'ils vont être un peu. Enfin, ils sont plus seuls, mais c'est vrai que même je crois qu'historiquement, c'est la première fois qu'un constructeur quitte complètement l'E3, parce que Nintendo, ils ont quand même un stand et ils ont le Nintendo Direct. J'ai pas souvenir d'un autre constructeur, à part Sega, bien sûr, qui a vraiment zappé l'E3 comme ça.
Non, l'un des gros, je crois bien que c'est la première fois. Ouais. Oui.
Nintendo n'avait pas fait de Nintendo Direct en 2016, mais ils étaient présents sur le salon.
C'est ça. Et du coup, voilà. Et Sony, en même temps, ça fait plusieurs mois, années qu'ils sont un peu comme ça. Déjà, je crois qu'à la dernière Gamescom, moi, j'y étais. Je crois que c'est une des premières fois. Je suis même pas sûr qu'ils avaient de stand. Enfin, en tout cas, il y avait un stand public, mais il n'y avait pas de rendez-vous privé. Il n'y avait rien du tout à l'E3. La Paris Games Week, ils ont fait une ou deux conférences fut un temps, mais là, ils ont complètement laissé tomber. Donc, on sent qu'ils essaient vraiment de s'isoler pour créer leur propre événement. Effectivement, par contre, au prochain PlayStation Experience, qui aura lieu je ne sais pas quand, ils vont être attendus au tournant, quoi.
Ouais, c'est sûr. Et bon, à voir ce que va faire Microsoft. Il serait possible qu'ils annoncent leur prochaine console. Ça serait intéressant. Bon, sortie 2019, ça semble un peu probable.
En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il y aura, à mon avis, un gros focus sur leur service de cloud gaming qui a été présenté déjà il y a quelques semaines. Là, je pense que là, ils vont mettre le paquet. Enfin, j'imagine qu'ils vont mettre le paquet là-dessus, quoi.
Ouais, mais est-ce que ça va intéresser les gens? Parce que le truc, c'est qu'ils sont quand même dans la même situation que Microsoft, que Sony, c'est-à-dire qu'ils sont aussi en fin de génération et qu'ils sont en train de préparer la prochaine génération, donc ils ont plus grand-chose à montrer sur Xbox One. Donc, à mon avis, soit ils annoncent leur prochaine console à l'E3, mais ça me paraît tôt. Faut pas oublier que la Xbox One, elle a été annoncée pour la première fois, elle a été présentée pour la première fois seulement 6 mois avant sa sortie, et qu'on est vraiment sur une tendance où les constructeurs essayent de réduire le plus possible le temps entre la première présentation et la sortie. Donc je les vois mal présenter prématurément leur console, et en même temps, s'ils le font pas, je pense qu'ils vont avoir une conférence qui sera pas passionnante.
C'est intéressant, du coup, effectivement, c'est peut-être hyper stratégique de la part de Sony, parce que mécaniquement, on attend Microsoft au tournant maintenant, et comme tu le disais, Oscar, Microsoft est dans la même situation que Sony, ils ont plus rien à montrer, entre guillemets, pour cette génération. Et donc, qu'est-ce qu'ils peuvent montrer? Ouais, c'est très intéressant comme manière de voir les choses.
Bah, là, on aura clairement, il y aura du gameplay sur le prochain Halo, par exemple, qui a été annoncé.
Il y a le Halo quand même où on a quasiment rien vu.
Il y aura, alors, encore une fois, c'est avec des pincettes, mais il y aura peut-être le Fable aussi, qui sera du coup peut-être le gros RPG de Microsoft, et il y aura, à mon avis, comme l'année dernière, une palanquée d'éditeurs tiers qui vont présenter, j'espère, ouais, s'ils arrivent à refaire le même coup que l'année dernière, qui vont présenter pour la première fois leur jeu. Voilà, souvenez-vous de Cyberpunk, quand même, qui était là pour la première fois, l'E3, Sekiro, etc. quoi.
Ouais, ceux-là, moi, ils m'impressionnent moins parce que c'est les jeux third party qui sont chez tout le monde. Et ceux-là, pour moi, ils sont pas.
Mais le fait qu'ils soient en premier présentés à la conférence Microsoft, ça fait que la conférence Microsoft devient un événement en dehors de Microsoft.
Ils vont effectivement, il y en a plein qui n'auront plus le choix, quoi. Tu peux pas aller chez Sony, donc tu vas chez Microsoft.
Ouais. En plus, voilà, ils ont. Donc là, ils auront un boulevard là-dessus, quoi.
C'est sûr. Mais c'est vrai qu'au-delà des jeux multiplateformes, c'est vrai qu'il suffirait qu'ils montrent Halo et Fable, et tout à coup, tout le monde se précipite sur la Xbox cette année.
Il y a aussi un Gears of War qui est en préparation.
Et il y a aussi un Gears of War qui est peut-être pas. C'est vrai qu'il l'avait annoncé l'année dernière.
Ils l'ont annoncé, on n'a rien vu du tout.
Ouais. Tu
vois le prochain jeu de juste des gars de Titanfall, là, le prochain jeu Star Wars Fallen Order, on peut imaginer une exclu, vu qu'il y a que Microsoft, ils sont présents en exclusivité. Il y a quand même des gros titres très attendus des éditeurs tiers qui ont leur place, je pense, à la conférence Microsoft.
Moi, j'ai hâte de racheter une nouvelle Xbox parce que j'ai ma vieille One qui meurt dans un truc, elle est trop gros, elle fait trop de bruit, elle a une alimentation monstrueuse. Donc je me dis, une nouvelle Xbox peut-être rachetée pour ces jeux-là et avec le Game Pass, franchement, il commence à donner une offre compelling, comme je disais tout à l'heure, qui vaut vraiment son argent. Et le 3 peut être un basculement, quoi. C'est possible. Parlons un petit peu de chiffres avant de passer au jeu de ce moment. Alors, on quitte complètement l'univers de Microsoft et de Sony. On va vous parler de Fortnite, dont on ne peut pas ne pas parler à chaque épisode, en fait. La dernière nouvelle en date, c'était il y a une dizaine de jours, le nouveau pic de nombre de joueurs simultanés sur Fortnite a atteint 8,3 millions de joueurs. Donc, joueurs simultanés, hein, pas le nombre de joueurs mensuels ou de quotidien ou de gens qui ont installé le jeu, c'est jouant en même temps 8,3 millions. Pour vous donner une idée de ce que ça donne, Steam Spy a posté en réponse que sur Steam, le nombre de joueurs en simultané est monté à 5 millions. Je rappelle, contre 8,3 millions pour Fortnite. Sur Steam, c'est tout jeu Steam confondu, 5 millions, et ils ont 16 millions de joueurs connectés aux clients en simultané. Il y a un autre analyste qui a publié d'autres chiffres, c'est Shanti Bergel, qui est un analyste de l'industrie, qui a dit donc que Fortnite avait atteint 8,3 millions. Après ça, on a Crossfire qui a 8 millions. C'est une sorte de CSGO qui est très populaire en Asie, free-to-play. League of Legends, 7,5 millions. PUBG, on descend à 3,2 millions. Alors évidemment, PUBG, c'est un jeu payant. Après, on a Roblox, très populaire chez les Jeunes, 2,3 millions. FIFA.
Je découvre l'existence de ce jeu.
Ouais, c'est très, très, très populaire. FIFA, 1,8 million. Minecraft, 1,4 million. Après, on descend. Dota, Destiny 2, Call of Duty, Black Ops, World of Tanks, machin.
Black Ops, lequel, on ne sait pas.
Call of Duty Black Ops, je crois que c'était le premier, non? Le premier Black Ops de l'époque, quoi.
Ah bon? Ah
oui. Non, mais on parle du pic tout court.
Ah oui, 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 d'accord. Historique, d'accord.
Historique. J'ai l'impression qu'on a déjà vu des chiffres à peu près équivalents. On parle de Crossfire, de League of Legends, etc. Mais moi, j'ai l'impression qu'on n'a jamais vu un succès aussi rapide que Fortnite, qui, soyons honnêtes, n'existait pas vraiment il y a encore à peu près un an, quoi. Oscar, est-ce que c'est à ce point un phénomène, est-ce que c'est ma vue qui est complètement distortée de ce jeu-là? J'ai l'impression qu'on n'a jamais vu de truc comme ça, quoi.
Ouais, non, je partage ton impression. Je pense que après c'est toujours difficile de comparer les phénomènes entre eux, surtout le fait que c'est un free to play. Du coup, c'est forcément difficile à comparer avec des jeux payants. J'ai vraiment l'impression que on est sur un phénomène record je trouve que ça se mesure surtout sur l'impact que ça a en dehors du jeu vidéo. Tu vois, le fait que t'as le rappeur Drake qui est à fond dessus, le fait qu'il y a les joueurs de foot qui font les danses, etc. Je pense que, quand on regarde pendant la Coupe du Monde, les joueurs de l'équipe de France n'arrêtaient pas de raconter que quand ils étaient à leur hôtel le soir, ils jouaient à Fortnite, quoi. Y en a plusieurs qui racontaient ça, et c'est là que tu mesures vraiment à quel point c'est répandu vraiment un très très grand public, et j'ai l'impression que je pense que le seul truc qui était à peu près similaire, c'était Pokémon Go les deux premiers mois, tu vois.
Ouais, sauf que là ça dure et d'ailleurs pour montrer, d'ailleurs, entre parenthèses, Pokémon Go, ils ont fait, je ne sais plus combien, 73 millions de revenus au mois d'octobre. Presque 70% de plus que l'année dernière. Alors, c'est surtout au Japon et aux US, mais il n'empêche. Pokémon Go, même si on en entend un petit peu moins parler, ils vont très très bien. Mais pour Fortnite, là encore, j'arrête pas de le dire à chaque fois, les gens d'Epic, c'est des génies. Et encore une preuve de ce génie, la prochaine série de skins qui sera intégrée dans Fortnite, c'est des skins de la NFL, la National Football League, le football américain aux US. Il y aura des skins avec les maillots de toutes les équipes de NFL américaines. Pour moi, c'est un truc, mais c'est tellement intelligent, quoi. Ah oui?
Parce que je crois que ça a été. Ils ont lancé le truc et ils l'ont retiré genre une heure après, un truc comme ça.
J'ai pas super bien suivi
le truc, mais en fait, visiblement, ça a été retiré très vite, alors que ça a été mis puis retiré très vite, et visiblement, c'est. Apparemment, c'est la NFL qui d'un seul coup s'est rendu compte que, mais attendez, on est en train de se flinguer dans le jeu, ça va pas du tout. un truc très bizarre, quoi.
Ça paraît étrange. Les mecs avaient pas compris. Écoute, j'ai pas du tout entendu parler de ça. J'ai dû rater la news, si c'est le cas, mais bon, on va suivre ça.
Ça s'est passé dans le courant de la semaine dernière, il me semble.
D'accord.
Ou alors j'ai rêvé, mais ça me paraît bizarre.
Oui, je me demande si tu l'as pas rêvé, parce que moi, j'ai pas du tout. Je fais une recherche Google rapide, je vois pas du tout.
Je crois que le Wall Street Journal a écrit un article. Je vais essayer de te retrouver ça.
D'accord, d'accord. Bah écoute, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que l'idée est hyper intéressante et peut se décliner sur tous les sports du monde, et c'est un alliage parfait. Quand tu penses à Fortnite, tu penses au foot, donc et vice versa. Donc c'est parfaitement adapté. En tout cas, c'est mieux que ce que fait PUBG avec des skins Joker et Harley Quinn du film comment il s'appelle,
Justice League. Non,
c'est Suicide Squad. Voilà.
Justice Squad.
Ce qui franchement, bref. Et d'ailleurs, je ne sais pas si vous avez vu le dernier mode temporaire de Fortnite, c'est la bataille gourmande, où il y a 15 contre 15, je crois, où il faut construire le plus gros fort possible, et puis la séparation se divise et il faut aller détruire la bouffe du mur. Enfin bref, encore une fois, ce mode Battle Royale et cette ingéniosité des gens et d'Epic, à force, on va croire que j'ai des actions chez eux, mais moi, je trouve qu'ils ont vraiment... ce que je disais la dernière fois, c'était on leur a donné une opportunité, et c'est la différence entre PUBG et Epic. PUBG, on leur a donné une opportunité, ils ont fait ce qu'on attendait en normal pour profiter de l'opportunité. Ils ont géré le truc comme n'importe qui aurait pu le faire. Epic, ils l'ont transformé. Ils ont transformé de l'or en diamant, quoi. C'est... Enfin, bref. Parlons un peu des revenus d'Activision Blizzard, avec notamment... Il y aurait plein de choses dont on pourrait parler, mais... Notamment, cette information et cette estimation selon laquelle Call of Duty Black Ops 4 a bien performé, comme on dit dans les milieux autorisés, mais par contre, Destiny 2 a underperformé, a pas atteint les objectifs qu'ils avaient fixés. Et il y a beaucoup de gens qui ont entendu ça et qui ont compris « Ah bah ça y est, Activision Blizzard est en train de détruire Destiny 2 ou Destiny 3 pour le transformer en un truc que les gens ne veulent pas, etc. » Moi, je crois que c'est pas du tout comme ça que je lis et que je comprends le truc. Destiny 2 a souffert très clairement du ratage de Destiny 2 Vanilla et comme j'en avais parlé de la l'erreur qui, à mon sens, était une erreur de nécessiter les premières extensions de Destiny 2 pour pouvoir profiter de Forsaken, ce qui a donc de la vraie extension de cette année, ce qui a refroidi un certain nombre de joueurs s'ils n'étaient pas déjà refroidis. La communauté de Destiny 2 est super contente et trouve que le jeu est dans le meilleur état qu'il ait jamais été. Mais par contre, tous ceux qui ont été refroidis par 4 ans d'histoire refroidissante de Destiny, où oui, ok, il y a des trucs super bien, mais il y a tel truc qui m'emmerde. Non, mais finalement, c'est bien. Non, non, mais attends, reviens. Si, si, finalement, c'est cool, je sais pas quoi. Et le jeu est quand même bien, mais du coup, ça met un puzzle hyper compliqué devant Bungie et Activision, parce que qu'est-ce qu'ils font pour le prochain? Il y aura sans doute une extension à nouveau pour Destiny 2 qui pourrait peut-être vendre sans avoir la nécessité d'acheter Destiny 2 de base. D'ailleurs, ils le donnent à tout le monde, il est gratuit un jour sur deux, donc ils ont bien compris ça. Mais est-ce que ça va suffire? Et puis s'ils font pas une extension mais un Destiny 3, pareil, les gens se disent ah, « c'est bon, tu m'as eu une fois, deux fois, au bout d'un moment, ça commence à suffire, quoi ». Donc, je ne sais pas comment ils vont résoudre ce problème. Et s'ils font un Destiny 3, ils font quoi? Ils font un reset, ils enlèvent une nouvelle fois toutes les armes de tous ceux qui les avaient perdues après Destiny 1. Moi, je crois qu'ils pourraient, mais je ne sais pas si la communauté sera contente. Je crois que ça serait possible, mais c'est compliqué. Et je crois qu'il y a une grosse déconnexion entre... ce que dit Activision sur les performances de Destiny 2 Forsaken, le fait que Bungie a dit « Non, non, mais nous, on est très contents du jeu. Les joueurs sont très contents. Le jeu, il n'y a pas de problème. » Mais après, c'est tout ce qu'il y a autour du jeu qui est compliqué. Ensuite, il y a la question des microtransactions qui, dans l'ensemble, sont plutôt bien faites dans Destiny 2. Donc ça ne pose pas vraiment de problème, à part certains qui sont contre les microtransactions tout court, point barre. Bon, ça, forcément, ils sont moins contents, mais... Tout ça pour dire que le jeu est bien, et je pense pas que Activision dise « Ah, oh, on n'est pas content du jeu ». Ils disent « Le jeu, c'est pas assez vendu ». Et je crois que le jeu, effectivement, ne s'est pas du tout assez vendu par rapport à sa qualité. Et la raison, c'est pas qu'ils ont pas façonné le jeu avec les machins qu'il faudrait pour attirer les... C'est qu'ils ont merdé, encore une fois, les étapes qui ont amené à Destiny 2 Forsaken, l'extension. C'est que tout ce qui est venu avant a refroidi les gens. Et c'est ça qui, à mon avis... Je pense qu'ils ne sont pas débiles, c'est ça qu'ils ont compris. Le problème de Destiny 2 Vanilla, c'était son endgame, et ça venait du fait qu'ils ont essayé de plaire à beaucoup plus de gens, à élargir le public, ça n'a pas fonctionné. Donc, ils sont conscients de ce qui marche et de ce qui ne marche pas. Donc, pour moi, ça ne m'inquiète pas par rapport à l'influence qu'a Activision sur Bungie. Au contraire, c'est Bungie qui a eu raison dans le lot, parce qu'aujourd'hui, le jeu tel qu'il est, ils savent ce que les gens apprécient. Donc, je ne sais pas comment ils vont s'en sortir avec ça, mais c'était intéressant de voir cette...
moi, je suis quand même vachement inquiet sur la relation entre Activision et Bungie. Je pense que la façon, la déclaration d'Activision, c'est quand même très rare et en particulier de la part d'Activision, qu'ils disent comme ça à leurs investisseurs qui sont pas contents des résultats d'un jeu. D'habitude, ils ont tendance à enrober la réalité, même quand ils sont pas contents, à essayer de faire croire que tout va bien, vous inquiétez pas, etc.
À un moment, t'as besoin de déclarer ce genre de choses aux investisseurs. Hein. Quand il y a un vrai problème, c'est légalement, t'es obligé de le dire.
Alors ça dépend. Quand tu donnes des chiffres, t'es légalement obligé de donner les vrais chiffres. Mais tu vois, ils pouvaient juste passer le truc sous silence. Il y a toujours des moyens, tu sais ce qu'on dit. Les chiffres, on peut leur faire dire ce qu'on veut. On peut essayer de faire croire que machin, que tout se passe bien, même quand. Et Activision, c'est des spécialistes pour ça. C'est tout con, hein, mais les Call of Duty. À partir du moment où ça a commencé à décliner, ils continuaient d'essayer de faire croire que ça faisait des lancements records en changeant la façon dont ils mesuraient les ventes. C'est-à-dire qu'au début, ils mesuraient les ventes uniquement aux États-Unis et au Royaume-Uni, puis après, sur le jeu suivant, ils sont passés aux ventes mondiales en disant « Regardez, ça a fait plus », sauf que ça a fait plus en prenant le monde face à, pour le jeu précédent, uniquement États-Unis et Royaume-Uni.
Bah, donc, moi, je crois qu'en l'occurrence, sur Destiny 2, c'est juste que ça, c'est pas du tout... Enfin, c'est pas enrobable, tu vois. Ils sont complètement plantés.
Ce que je veux dire, c'est que et derrière, Bungie qui dit... Nous, ça va. Je pense que ça trahit vraiment une embrouille entre les deux où, à mon avis, Bungie, effectivement, pour eux, ça va. Mais pour Activision, eux, ils ont besoin que ça se vende beaucoup plus parce que pour eux, c'est voilà, l'échelle de la société.
If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm lip fillers. With Juvederm Volbella XC and Juvederm Ultra XC, your lip look, whether it's subtle or bold, can last up to one full year with optimal treatment and no additional maintenance. Find a licensed specialist and see if it's right for you at Juvederm.com today. That's Juvederm.com. Add fullness to lips in adults over 21 with Juvederm Volbella XC or Juvederm Ultra XC. Do not use if you have severe allergies or a history of severe allergic reactions, or if you're allergic to lidocaine or the proteins used in Juvederm. Tell your doctor if you have a history of scarring or taking medicines that decrease the body's immune response or that can prolong bleeding. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. As with all fillers, there's a rare risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. For full, important safety information, visit Juvederm.com.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Énorme, donc ils ont besoin de trucs qui rapportent beaucoup d'argent. Et pour eux, ça rapporte pas assez. Et à mon avis, c'est... je suis très inquiet vraiment pour leur relation et de fait pour l'avenir de Destiny, quoi.
C'est sûr que au minimum, tu coordonnes ta communication. Je pense que Bungie n'était pas content du tout d'entendre les choses
dites
comme ça.
Est-ce qu'on sait à qui appartient l'IP Destiny? C'est Activision
ou c'est les deux? C'est les deux.
D'accord.
Donc l'un ne peut pas continuer à le faire sans l'autre, quoi. A priori, on ne sait pas. Mais...
Leur contrat était sorti à l'époque, parce que c'était à l'époque de l'embrouille entre Activision et Infinity Ward. Ouais. Et devant la justice, ils avaient balancé le contrat avec Bungie pour dire « Regardez comme on est réglo dans nos contrats. » Et alors, je ne me souviens plus en détail, mais en gros, il y avait une histoire comme quoi si Bungie se retire du projet, là, à ce moment-là, Activision fait ce qu'ils veulent. Ouais. Tu vois, Activision peut pas dire, le prochain jeu, on le fait développer par un autre studio,
c'est ça.
Sans consulter Bungie, sans avoir l'autorisation de Bungie là-dessus, tu vois.
Mais bon, ensuite, on peut toujours imaginer un moyen pour Activision de faire sortir Bungie volontairement, guillemets.
Oui. Je pense que ça peut être très violent, hein, s'ils s'embrouillent vraiment.
Mais je crois que. Vraiment, sur ce cas-là, alors on ne sait pas qui a poussé Bungie à faire de Destiny 2 un truc plus grand public, entre guillemets. Moi, je n'ai pas l'impression que ça soit Activision, mais peut-être. Moi, j'ai l'impression que c'est vraiment une décision de Bungie de se dire, bon, on va toucher un public plus large, il y a une formule qui marche, mais on va l'étendre. Bon, clairement, ça n'a pas marché. Mais là, ils peuvent s'en prendre C'est difficile à dire, on va pas spéculer à cause de si, à cause de qui, est-ce que c'est Activision, est-ce que c'est Bungie. Je suis sûr que les gens qui détestent Activision vont dire « Ah mais évidemment, c'est Activision qui a dit il faut faire Destiny 2 comme ça, donc c'est pour ça qu'ils l'ont fait comme ça et que ça s'est planté, machin. » Moi, j'avais l'impression qu'il y avait une question de game design. Bungie avait envie que son jeu soit joué par un public plus large. Et c'est pour ça qu'ils ont fait ça. Mais quelles que soient les raisons, aujourd'hui, c'est sûr qu'ils sont dans une situation complètement merdique où je ne sais pas comment ils vont s'en sortir. S'en sortir dans le sens où bah, ils travaillent avec Activision. Comme tu le disais, Oscar, ils ont besoin de faire des jeux qui se vendent beaucoup. Et beaucoup, beaucoup. Pas juste... peut-être que... Quand Bungie disait « on est content du jeu », il disait « on est content de l'état du jeu, de son gameplay ». Il disait pas « on est content des ventes du jeu ». Donc, c'est à mettre en perspective aussi.
Mais je pense que même Bungie, ils sont contents des ventes pour parce qu'à l'échelle de Bungie, ça va. Mais à l'échelle d'Activision, ça va pas, quoi.
Oui, oui et non, je suis pas sûr. C'est Bungie, c'est quand même Halo, quoi. Halo, c'était que sur Xbox. Mais enfin, c'était quand même un phénomène invraisemblable. Je suis pas convaincu que...
Je crois que le premier Destiny, c'est mieux vendu qu'Halo.
Oui, le premier. Mais là, on parle de Destiny 2.
Voilà.
Là, on parle de Destiny 2 aujourd'hui.
Après, le truc aussi, c'est que, mais même le premier Destiny, je crois qu'Activision n'était pas satisfait. Parce que, à l'époque, avant la sortie de Destiny 2, dans les interviews à Activision, ils disaient clairement qu'ils espéraient que le jeu se vende mieux que le premier. Et sauf que ça a été le contraire.
Bon bah à voir comment ils vont se débrouiller, je suis sûr qu'on aura des annonces à l'E3, hein. D'ailleurs Activision, un autre studio qui n'est plus à l'E3 depuis un moment, un autre développeur qui n'est plus, éditeur qui n'est plus à l'E3 depuis un moment, donc peut-être Destiny 3 ou Destiny 2 extension nouvelle sur Xbox, sur, enfin à la conférence Microsoft Xbox, à voir ce qui se passera à ce moment. Quoi d'autre ? Bon on a quelques... chiffres, avant de passer au jeu auquel on a joué ou pas, que je voulais évoquer, qui était hyper intéressant, c'est les chiffres du NPD. Donc, des chiffres, c'est uniquement aux États-Unis. Les meilleures ventes de l'histoire sur PlayStation 4 et Xbox One. C'est vraiment intéressant de voir quels jeux se vendent. PlayStation 4, on a Grand Theft Auto 5 en premier, bien sûr. Ensuite, Call of Duty World War 2, Call of Duty Black Ops 3, Call of Duty Infinite Warfare. Ok. Ensuite, NBA 2K18, Battlefield 1, God of War 2018, uniquement en 7e position. Rendez-vous compte, le jeu exclusif, machin, super succès, le plus vendu, machin, il est en 7e position des jeux les plus vendus sur PlayStation 4. Donc, moi, j'aurais jamais pensé que les jeux exclus, first party, se vendaient moins que les jeux multi sur la console. Mais bon, ça montre à quel point le vrai public du jeu vidéo est pas forcément celui auquel on pense quand on parle de core gamer. Après ça, on a Star Wars Battlefront 2015, Call of Duty Advanced Warfare, encore un, Advanced Warfare en 9e position, et puis NBA 2K18, si on passe sur Xbox One, Grand Theft Auto 5 bien sûr, Call of Duty World War 2, Call of Duty Black Ops 3, Call of Duty Infinite Warfare, Battlefield 1, Battlefront 2015, Call of Duty Advanced Warfare, donc un petit peu plus haut, Halo 5 Guardians en 8e position, et puis Destiny 2 et Fallout 4, quand même belle affaire pour Bethesda, sur Xbox. Bon voilà, je voulais juste les mentionner parce que c'est intéressant, ça vous inspire quelque chose ces chiffres-là ?
Bah, ce qui est marrant, c'est que Call of Duty, finalement, on disait que Call of Duty était moins, se vendait moins qu'avant, etc. Mais ça, finalement, ça va. Enfin, surtout que les jeux que tu cites, c'est souvent les épisodes les moins appréciés. Infinite Warfare, Advanced Warfare, tout ça, c'est des épisodes qui sont un peu passés, enfin, qui sont relativement passés inaperçus à côté des Black Ops et compagnie. Donc,
Ouais.
C'est un peu surprenant.
Faut quand même faire attention au fait qu'il n'y a pas de chiffres.
Bien sûr.
Et le truc, c'est que le Call of Duty se vend moins qu'avant, mais Call of Duty reste le numéro un des ventes chaque année, sauf quand il y a un GTA ou sans doute cette année Red Dead. Mais,
Red Dead qui a 17 millions de copies vendues déjà. Donc,
Je trouve ces listes vraiment pas surprenantes, mais il y a quand même un truc qui me fait marrer, c'est surtout comment tu les rapportes. C'est comment tu dis GTA V, bien évidemment.
Ouais.
faut quand même pas oublier que c'est un portage.
Oui, oui, bien sûr.
Xbox One. Enfin, tu vois, c'est un remaster. Le jeu le plus vendu sur PS4 et Xbox One, c'est un portage d'un jeu qui était sorti sur PS3 et 360. C'est quand même assez fou.
GTA 5, c'est hallucinant. C'est vraiment unique. J'ai l'impression que c'est unique. Même dans je sais pas si c'est unique dans l'histoire du jeu vidéo, mais une durée de vie aussi longue sur d'un jeu comme ça qui est à cheval sur deux voire trois générations de consoles. Enfin, c'est incroyable.
C'est dingue.
On est d'accord. Mais c'est marrant de voir vraiment à quel point les jeux qui se vendent le plus sur toutes les consoles, c'est pas des jeux. Enfin, quand on dit souvent, ah ouais, bah, il y a des gens qui achètent un Call of Duty et un FIFA chaque année et c'est à ça qu'ils jouent et basta. On le dit avec un petit peu de, comment dire, pas dédain, mais enfin, on se moque un petit peu, on rigole un peu. Et on se rend pas compte à quel point c'est important, quoi. Là, on a NBA qui est cinquième sur PlayStation 4. C'est en France ou en Europe, j'imagine qu'on remplace un jeu de sport américain par FIFA. Et voilà, on a les mêmes chiffres. Rappelons encore une fois que c'est aux États-Unis.
Les FIFA sont plus forts que Call of Duty chez nous.
Ouais. Mais je veux dire, oui, ces jeux-là qui se vendent, en fait, sur console. Les jeux entre guillemets, pour être élitiste, c'est pas les mêmes échelles, quoi.
Non, mais carrément. Et moi, j'ai une anecdote à ce sujet. Du côté de ma belle famille, il y a un cousin de ma femme qui... Alors, ils sont joueurs, tu vois, ils jouent pas trop aux jeux vidéo. Et il y a un cousin, un jour, qui a acheté, ça remonte à quelques années, hein, qui a acheté une PS3. Et du coup, je trouvais ça cool que voilà, qu'il achète une console, qu'on pouvait parler de ça et tout. Et je lui demande ce qu'il avait, et il avait un seul jeu, c'était le Call of Duty, je sais plus lequel, enfin celui de l'année où il a acheté la console. Ouais. Et du coup, au bout d'un moment, je lui propose de lier mon compte PSN avec le sien pour qu'il puisse récupérer les jeux que j'ai achetés sur le PSN. Et le mec a carrément refusé, quoi. Il m'a dit non, mais moi, il y a que Call of Duty qui m'intéresse, quoi. Et chaque année, il achète un nouveau Call of Duty et tu peux essayer de lui proposer, de lui prêter un jeu ou quoi que ce soit, il refuse, il veut pas, il veut vraiment jouer qu'à ça, quoi. Il y a vraiment que ça qui l'intéresse. C'est assez fou et je pense qu'il y a pas mal de gens, effectivement, qui sont comme ça, qui se limitent à Call of Duty ou à FIFA ou les deux, ou éventuellement GTA quand il y en a un, mais c'est tout. Mmh. Et vraiment, je pense qu'il y a une partie importante du grand public qui est comme ça, quoi.
Ouais, qui est mono-ludique.
Comme tu dis, hein, c'est classement le prouve, quoi.
Ouais, c'est sûr. Je me demande si, dans une certaine mesure, des personnes un peu dans cette plus proche de cette partie de l'échelle de la multiludicité, si c'est pas des gens comme ça qui prennent le Game Pass et qui sur Xbox et qui du coup découvrent d'autres jeux que ceux auxquels ils ont l'habitude de jouer, et ce qui amène Phil Spencer à dire c'est le Game Pass. Les gens qui ont le Game Pass achètent plus de jeux qu'avant. C'est ce qu'il disait pour rassurer les éditeurs. Je sais pas dans quelle mesure c'est vrai, mais peut-être que c'est des gens effectivement qui disent je vais le prendre pour je sais pas moi Halo ou Gears of War, et puis ils découvrent d'autres jeux, c'est possible. Mais d'ailleurs, entre parenthèses, j'avais oublié de dire à un moment que le programme de passage du physique au numérique avec pour la Xbox 100, la Xbox SD, ceux qui suivent se souviennent de ce que c'est, la Xbox One SD, ça va être marrant parce que si tu le dis à des gens comme, je sais pas moi, la Fnac ou Micromania de faire ce type d'échange, c'est vraiment... Alors, est-ce qu'on pourrait vous demander de vous tirer une balle dans la tête à chaque fois? Parce que c'est vraiment vous pousser au-delà de la comment dire en dehors du relevant. Je fais plein d'anglicismes pour cet épisode. Vous n'avez vraiment plus aucune importance, quoi. C'est vous nous aidez à vous sortir du marché parce que on veut plus vendre de physique, on veut que des codes. Bref, ça m'avait marqué.
Ouais, non, mais c'est de toute façon, c'est comme à l'époque de la PSP Go, quoi. Les magasins étaient pas très motivés pour la vendre, quoi, c'était pas dans leur intérêt, quoi.
Et du coup, je me demande avec qui ils vont faire ce partenariat, peut-être je sais pas, avec des Darty ou des trucs comme ça, mais même, enfin, je sais pas.
Je suis assez curieux aussi, ouais.
Bon, bah écoutez, si on a fait tous les chiffres qu'on voulait couvrir, je vous propose qu'on avance un petit peu. D'autres choses? Non? Bon, allez.
Non, pour moi, c'est bon, vas-y.
Alors, parlons des jeux sortis ces dernières semaines. Il y en a encore quelques-uns, peut-être des moins gros que ces derniers mois, mais il n'empêche, des jeux quand même. Il y a Tetris Effect, Hitman 2, Battlefield 5, Fallout 76 et Pokémon Let's Go qui sont sortis ces dernières semaines. Je sais que JK, tu as joué à quelques-uns d'entre eux. Est-ce que tu veux nous dire ce que tu en as pensé ? Je te laisse la parole.
Ouais. Alors attends, la petite liste que tu as fait. Moi, c'est vrai que j'ai surtout joué à
Pokémon,
Pokémon. Bah, écoute, non, Pokémon, c'est le genre de jeu j'aimerais vraiment m'y mettre en fait. Mais à chaque fois que j'ai essayé de me mettre à Pokémon, j'ai lâché l'affaire au bout de.
C'est comme moi, ouais.
Au bout de 5 heures de jeu, parce que j'ai du mal à comprendre quoi. Le truc, c'est comme Animal Crossing quoi. C'est des jeux que j'aimerais aimer, mais non, ça marche pas.
Il faut avouer que ce Pokémon, il y a des gens qui l'apprécient beaucoup. Je pense que c'est des gens qui sont peut-être fans de la série, mais le but avoué est d'amener les fans de Pokémon Go à une version assez facile de Pokémon classique. Et c'est un petit peu une refonte du Pokémon de l'époque, des tout premiers, pour l'ère moderne. Il a l'avantage d'avoir la possibilité, c'est le premier, qu'on peut jouer sur une grande télé, et ça, je pense que ça fait la joie de très nombreux fans de Pokémon. Mais c'est vrai que c'est peut-être pas... Alors, il est simplifié par certains aspects, mais pour des gamers comme nous, c'est peut-être pas le... On va attendre pour lui redonner sa chance. Je pense qu'on va attendre le Pokémon, le vrai nouveau Pokémon qui arrivera
dans un jeu.
Ouais,
les Pokémon, je sais plus quel, mais ouais.
Pourquoi se forcer à une époque où on a tellement du mal à jouer à suffisamment
de jeux? Et je suis en train de jouer, donc moi je suis toujours dessus, Battlefield 5, Tetris Effect. Moi je vais passer rapidement, mais Tetris Effect, c'est marrant parce que la dernière fois je rentre à la maison, j'avais un peu de temps devant moi et j'allais le PS4 et j'avais le choix entre Red Dead et Tetris. Tu dis bon bah tu vas jouer à Red Dead. Bah non, j'ai joué à Tetris Effect parce que franchement Tetris Effect, c'est un jeu assez incroyable, franchement. Je peux peut-être rappeler le concept parce que c'est quand même particulier. Vas-y. Effectivement, c'est le gameplay de Tetris, donc là. Évidemment, j'ai pas besoin de présenter Tetris. Sauf que derrière, t'as le studio donc de Tetsuya Mizuguchi derrière. Donc c'est un jeu qui mêle vraiment de manière très intime le visuel, le game design et la musique.
Ouais, Mizuguchi, Rez, Lumines,
voilà, Rez, Lumines, Space Channel 5 avant sur Dreamcast, Child of Light. Voilà, il aime beaucoup les jeux musicaux, enfin en tout cas avec des ambiances musicales très très prononcées et très très électro. Et là, en fait, il arrive à faire. En fait, c'est un jeu qui est découpé en niveaux et donc le but, c'est par exemple au début, c'est de faire 30 lignes pour passer au niveau suivant. Sauf que chaque niveau a une piste musicale différente et à chaque fois qu'on bouge son tétrimino, c'est comme ça qu'on dit, ça va faire un petit son qui va, de manière assez miraculeuse, se caler sur la musique. Et plus on enchaîne les lignes, plus le morceau se développe et se crée et on rentre dans une sorte de transe parce qu'évidemment, il y a un habillage. Alors, face à toi, tu as juste un truc de Tetris classique, mais tout autour, c'est plein d'effets psychédéliques, etc. Le jeu est compatible en réalité virtuelle, mais il se joue très bien sans casque de VR parce que c'est un jeu exclusif PSVR. Et moi, je n'ai pas de PSVR, donc j'ai pas eu l'occasion de l'essayer en VR, mais c'est très, 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 très sympa à jouer déjà sur un écran. Franchement, si vous aimez, en fait, la musique électronique, si vous êtes un peu sensible aux jeux qu'on a cités, donc Rez, etc., c'est top parce que c'est une façon de se rappeler aussi que Tetris, c'est un jeu intemporel et que dans 30 ans, on jouera toujours à Tetris. Et c'est un des, en termes de mécanique de jeu, c'est un truc les plus parfaits qui soit, quoi. Non, vraiment, c'est chouette. C'est vraiment très, très chouette. Battlefield 5, c'est pas mal aussi. Enfin, c'est même très bien. C'est une version. Alors, on a tendance à dire que c'est un skin seconde guerre mondiale, le Battlefield 1 qui prenait place pendant la première guerre mondiale. C'est un peu pareil, notamment sur le solo, ils ont refait le choix de faire plusieurs mini-campagnes. Là, il n'y en a que trois pour le moment. Il va y avoir une quatrième gratuite, je crois, qui sort le mois prochain. C'est trois campagnes avec trois personnages différents et qui sont des campagnes plutôt agréables, mais assez anecdotique malgré tout. L'avantage pour le solo qu'ils ont fait, ce qui est pas mal, c'est que c'est des niveaux très ouverts et on a toujours trois objectifs et on peut faire un peu dans l'ordre qu'on veut et surtout on peut choisir une approche. On peut essayer d'y aller en infiltration, on peut tirer dans le tas, etc. Donc c'est classique, mais c'est assez solide. En termes de multijoueur, par contre, c'est toujours aussi épique. Je trouve qu'ils font un effort et j'ai l'impression que c'est encore plus présent dans cet épisode pour tout ce qui est mise en scène. C'est pas facile à expliquer. C'est vraiment la première fois enfin c'était déjà présent dans One, mais encore plus dans celui-là, que on a l'impression de faire des parties multijoueurs qui sont scénarisées, qui sont presque scriptées en fait, tellement c'est épique. Il y a tout le temps ton escouade qui te parle, mais c'est des paroles automatiques, mais c'est tellement naturel en fait qu'on a vraiment l'impression d'être dans un petit scénario dans une bataille de la Seconde Guerre mondiale extrêmement épique et tout. Enfin c'est très très efficace. Le jeu est beau à crever, hein. Ils sont toujours aussi forts pour leur moteur, hein. C'est vraiment le Frostbite, c'est un des moteurs les plus beaux qui soient et les mieux optimisés. Vous n'avez pas besoin d'un PC à 1 500 € pour faire tourner le jeu, et c'est vraiment impressionnant. Donc disons que sans surprise, c'est un très bon jeu. Voilà, si vous avez passé du temps sur One, je pense que vous pouvez y aller sur celui-là sans problème, quoi.
Ouais, j'ai entendu des très bonnes choses sur Battlefield 5.
C'est très solide. Ouais, donc voilà, et puis sinon, et Hitman 2 rapidement, ouais, Hitman 2, j'y ai un peu joué, j'ai pas eu le temps beaucoup de m'y mettre, mais de ce que j'en ai entreaperçu, moi j'avais pas joué au précédent, donc le jeu épisodique, là a priori c'est un peu la même recette qui a amélioré, mais le champ des possibles dans ce jeu est complètement dingue. C'est même vertigineux en fait. Moi qui justement ai débarqué un peu comme ça quasiment en profane, j'avais pas joué à Hitman depuis très longtemps, on se rend compte qu'en fait chaque niveau, il y a peu de niveaux dans le jeu, mais les niveaux sont tellement vastes et bourrés de possibilités qu'on peut vraiment, l'intérêt c'est vraiment de refaire le niveau 5, 6, 7 fois et à chaque fois de cette manière différente. Donc voilà, et c'est vraiment là c'est la pure infiltration, c'est vraiment l'infiltration dans ce cas-là de plus pur, quoi. C'est très très bien, mais j'ai pas eu le temps de m'y mettre suffisamment, malheureusement.
Ce qui est particulier avec ce jeu, Hitman 2 spécifiquement, enfin Hitman, c'est la rejouabilité des niveaux. C'est vrai que dans le premier, c'était un jeu qui sortait, qui avait une saison et qui sortait des épisodes les uns après les autres.
Ça, ouais.
Et donc, pendant un moment, tu n'avais qu'un seul niveau. Et donc, tu avais des moyens de le rejouer de manière presque infinie avec des challenges, les fameuses elusive targets qui sont peut-être arrivés plus tard, par contre. Mais c'est un jeu très particulier.
Ouais, ça t'encourageait à refaire le sans arrêt le niveau, quoi.
Ouais, c'est ça.
Bah, c'est ça. Et puis il y a un système de scoring. C'est presque un côté arcade parce qu'il y a tout un système de scoring, de classement, etc. Et c'est franchement, c'est chouette, quoi.
Moi, ce que j'ai entendu sur Hitman 2, c'est qu'il y a plein de gens qui sont hyper contents parce que c'est plus de Hitman. Il y a quelques mécaniques en plus, machin, mais à la limite, si vous appréciez ce jeu, Hitman 1 est très bon marché en ce moment et donc vous pouvez y aller.
Et je crois, alors je ne sais pas si c'est gratuit ou pour les... Je crois que quand on possède Hitman 1, on peut refaire, en fait quand on achète le 2, on peut refaire toutes les missions du 1 avec toutes les nouvelles features de gameplay du 2. Et ça c'est une excellente idée, je trouve. Hein. Ouais. C'est top, quoi. Donc voilà, donc solide.
Juste pour rebondir, je n'ai pas joué à Hitman, mais pour parler chiffres, désolé, les premiers chiffres de vente au Royaume-Uni sont arrivés et ils sont très mauvais. Et je pense que le studio est dans une très mauvaise situation. De toute façon, si Square Enix s'en est débarrassé, c'est pas pour rien. J'ai envie de dire, si vous êtes intéressé, ça peut être un acte militant que d'aller l'acheter après le 2.
Il y a beaucoup de rumeurs qui disent qu'ils jouent un peu leur survie avec ce jeu.
Je pense clairement. Quoi,
parce que c'est un studio extrêmement talentueux. Quoi.
Un truc à racheter pour Microsoft encore.
Ouais. Bon, à la limite, pourquoi pas, hein, si c'est mieux vaut ça que les voir disparaître.
Ouais. Bah, a priori, jeu PC, Core Gamer, IO, ils sont.
Ceci dit, le problème, c'est que le jeu sort à un timing qui est pas bon, quoi. Il sort entre Red Dead et Battlefield. Enfin, tu vois, c'est une période où c'est essayer de sortir un triple A qui est pas non plus extrêmement attendu, tu vois.
Hitman 2, je le qualifierais pas de triple A, hein. Je pense que c'est un
non,
double
bah,
A.
Non, c'est du. Ah, ça dépend, il y a quand même des moyens techniques. Enfin, c'est un jeu qui est très joli. Oui, c'est pas un triple A dans le sens.
C'est pas un blockbuster, c'est quoi. Sûr, c'est un bon jeu, mais au niveau budget, je pense pas que.
Ouais.
Et puisqu'on parle de budget, on peut aussi évoquer le. Je sais pas comment le qualifier, ce semi-scandale de Fallout 76. Si j'exagère, hyperbole, mais j'ai rarement entendu des gens autant détester un jeu qu'ils aiment. Fallout 76, j'ai l'impression que tous ceux qui en parlent disent, mais c'est de la merde, mais j'arrête pas d'y jouer. Il y a tellement de bugs, tellement de problèmes de conception, pas juste des bugs auxquels on est habitué avec Bethesda, ce qui, d'ailleurs, j'ai l'impression que les gamers du monde entier les ont encouragés dans cette politique de développement où ils sortent des jeux pas finis, parce qu'on a toujours trouvé ça mignon jusqu'à maintenant, et là, bah, ça va juste trop loin. Mais si n'importe quel autre éditeur, je sais pas, si EA sortait un jeu aussi buggé que Fallout 76, mais il se ferait incendié par l'ensemble du net, par toutes les chaînes YouTube, crierait au scandale, enfin bon, bref. Et pourtant, les gens disent, ah ben j'y joue, j'y ai joué 20h, 30h, et je continue à y jouer. Enfin, c'est, moi je ne l'ai pas du tout testé, donc je ne peux pas vraiment en parler, et en plus je ne suis pas très fan de la série Fallout, mais c'est évidemment un jeu très différent des Fallout, enfin quand on dit classique, je parle du 3 et du 4, mais puisque c'est, il y a des aspects multijoueurs et puis des problèmes avec le multijoueur, il y a des bugs, vraiment bugs quoi, et tu es dans des instances avec des personnes qui peuvent faire des trucs, enfin bref, c'est j'ai rarement vu une telle réaction à la sortie d'un jeu, donc je sais pas trop quoi en penser, mais
Les premières notes métacritiques des utilisateurs sont pas bonnes. Je sais pas ce que ça va donner en termes de chiffre de vente, mais alors on enregistre, il y a un patch. Alors je mets Day One parce que j'ai déjà sorti 3 jours, mais il y a un gros patch de 50 gigas, donc plus gros que le jeu d'origine qui va sortir. Donc on imagine que ça va régler quand même un bon paquet de bugs. Et après tu dis un jeu très différent, pas tant que ça, puisque je sais que j'en ai pas mal discuté avec notamment avec mon collègue Goto, c'est là qui a fait le test chez Gamekult. C'est quasiment la map de Fallout 4 en fait, avec mais débarrassé de ces quatre de son écriture, de son système de quête, etc. Donc c'est une sorte de Fallout un peu au rabais. Enfin moi je ne comprends pas ce qu'ils ont voulu faire avec ce jeu quoi.
Ils ont voulu faire un mode multiplayer pour Fallout 4.
Ouais mais
ils ont pris toutes les assets.
Oui, d'accord, mais à ce moment-là autant se donner d'ambition. Enfin je veux dire, ça aurait été peut-être plus intéressant de confier le développement au studio principal de Bethesda, mais par exemple à ceux qui ont fait même si je n'ai pas parfait The Elder Scrolls Online, pour faire un vrai jeu en ligne, un vrai MMO Fallout.
Non mais c'était pas l'idée.
C'est un ersatz. Ouais, mais là, c'est quoi l'idée de ce jeu? L'idée de ce jeu, c'est de faire un Fallout sans scénario, que tu peux jouer à 4 ou 6 ou 32, j'en sais rien.
Non, c'est un mode multi pour Fallout.
Un mode multi vendu 60 euros. Enfin, tu vois, tu
ah, ça, c'est un autre problème.
Je comprends pas la démarche. Je comprends pas la démarche. Vraiment.
Je pense que la démarche est purement financière. C'est de faire un jeu service qui leur rapportera du pognon.
Oui, mais c'est vrai.
Avec des microtransactions, quoi.
Mais comment ils monétisent sur la longueur?
Là pour l'instant ils sont dans l'étape
d'éteindre les incendies, donc
de convaincre les gens de l'acheter, et puis je pense que vaut mieux qu'ils foutent pas trop la merde avec les microtransactions tout de suite, déjà que c'est compliqué.
C'est possible, moi je suis pas aussi cynique, moi je crois qu'effectivement c'est une question financière, t'as raison, mais je suis pas certain que ça soit un jeu as a service qui soit perclus de microtransactions je crois que simplement ils voulaient un Fallout cette année, un gros jeu cette année, ils se sont dit on a ça, on a des développeurs passionnés qui ont travaillé dessus, il est pas tout à fait fini, mais enfin soyons honnêtes, nos jeux sont jamais tout à fait finis, et puis on a ça à sortir, ça fait un jeu cette année, ça va faire un certain nombre de ventes, oui ça va pas être le plus gros jeu qu'on vende de notre histoire, mais de toute façon il y a le Elder Scrolls 6 qui arrive un moment dans 2 ans sur la prochaine gen, et à ce moment tout le monde aura oublié Fallout 76.
2 ans, t'es optimiste, hein.
Je suis optimiste, c'est vrai.
Sur du 5 ans.
Il y a Starlink d'abord.
Voilà, Starlink, c'est vrai,
Starlink,
c'est vrai.
Non, c'est pas Starlink. Starlink, c'est le jeu d'Ubisoft. Star Truc. Oui, normalement, qui est censé sortir avant. Donc, justement, alors, ce sera très.
Starfield.
De voir le Starfield, voilà. Je suis très curieux de voir le prochain E3 de Bethesda. Il y aura Doom, évidemment, mais à part ça, qu'est-ce qu'ils vont montrer, quoi. On verra.
Ah, bah, Starfield.
Remarque, Doom, il sort avant l'E3, je crois.
Ah bon?
Doom Eternal,
ouais, je sais pas, je crois, je sais pas regarder. Je sais pas vérifier.
Je crois
que c'est annoncé pour le printemps.
La puissance de Google me dit qu'il est annoncé pour 2019.
Donc pas de date. Si c'est printemps, c'est super, mais bon.
Donc, voilà pour... rappelons qu'aucun d'entre nous n'a joué à Fallout 76. Hein, et encore une fois, je le dis pas pour défendre Bethesda, moi j'en ai rien à foutre de Bethesda, mais il y a plein de gens qui disent qu'ils y jouent des dizaines d'heures et qui continuent à jouer et à l'apprécier, tout en étant absolument furieux des problèmes de conception du jeu. Donc c'est une dichotomie intéressante, quoi.
En espérant que le patch qui arrive là règle un peu les soucis, quoi.
Mais je crois que ça va régler les bugs, mais ça risque de pas régler les problèmes de conception,
tu vois. C'est sûr.
Après, Patrick, note juste que on peut faire un jeu pour des raisons.
Qu'est-ce qui se passe? Quelqu'un s'est mis à cliquer comme un fou sur sa souris. Je crois que c'est JK. Vas-y, vas-y, Oscar.
Juste pour dire, c'est moi. Je pense qu'on peut faire un jeu pour des raisons purement financières, mais ça n'empêche pas derrière d'avoir des développeurs qui sont passionnés par ce qu'ils font et qui n'ont pas de mauvaises pensées dans leur conception du jeu.
Ah non, tout à fait. Moi, quand je dis, pour moi, c'est pas un gros mot des raisons financières. Enfin, je sais qu'il y a des gens qui pensent comme ça. Je crois qu'il faut un équilibre entre la motivation financière et la motivation, on va dire, artistique avec des guillemets, mais enfin, le jeu vidéo est une entreprise financière à la base, donc essayer de sortir l'une de l'autre, à part chez certains indés, et encore, ça n'a pas de sens. On peut faire les deux, c'est comme le cinéma, c'est comme la musique. Bon, peut-être que la musique est un petit peu à part, et même le cinéma, et même, enfin, voilà, il y a des indés qui font ça juste pour la beauté de l'art, ils s'en foutent de si leur jeu se vend, mais c'est quand même rare. Et puis après, on a un équilibre qui essaye d'être trouvé. Parfois, il n'est pas du tout trouvé. Et puis, parfois, il est plus controversé. Sur Fallout 76, je crois que... je ne sais pas, en fait. Je ne sais pas si c'est uniquement une motivation financière. Je crois qu'il y a effectivement des développeurs qui voulaient faire ça. Et peut-être qu'il aurait pu bénéficier d'un petit peu plus de temps de développement. Et ça, c'est l'histoire.
Non, mais après, je pense que le problème principal de Bethesda, c'est qu'il est temps qu'ils investissent massivement dans la QA, quoi. Ouais. Ils ont un vrai problème à ce niveau-là, quoi.
Et peut-être que là, ça sera enfin le moment, le réveil avec Fallout 76. Ils vont se dire, bon, Starfield et Elder Scrolls 6, ça ne peut pas se passer comme ça. Espérons. Je voulais juste dire deux mots sur deux jeux auxquels j'ai joué. Des jeux tout jeunes, vraiment, qui viennent d'arriver et que je vous fais découvrir en exclusivité. Je plaisante à moitié pour l'un d'eux et beaucoup pour l'autre. Obra Dinn, Return of the Obra Dinn, que j'ai testé un petit peu. J'ai pas joué très longtemps, mais j'avoue que j'ai été assez surpris. C'est vraiment un jeu hyper intéressant. C'est pas un jeu pour moi, donc je pense pas que je vais aller au bout, mais il y a des mécaniques de narration dans ce jeu qui sont fascinantes. J'avais quand même un petit peu... J'étais perdu parce que au niveau interface et fonctionnement, c'est à peu près aussi bien expliqué que dans Red Dead Redemption 2. Donc, j'étais complètement perdu. Genre, attends, alors là, la montre s'ouvre, mais non, là, alors j'ai cliqué sur le truc. Est-ce que j'ouvre le livre? Mais là, c'est pas le bon bouton. Enfin bref, c'était un petit peu compliqué. Mais... la narration est incroyable, c'est une sorte de truc. Je ne vais pas trop raconter parce que je ne veux pas spoiler, mais il y a manière de raconter ce qui s'est passé sur ce bateau, parce que bon, ça, ce n'est pas spoiler, c'est on arrive sur un bateau où tout le monde est mort et on essaye de comprendre ce qui s'est passé. Et il y a vraiment, c'est presque, il y a un aspect du jeu qui est presque un walking simulator. On peut faire, je crois, je ne suis pas arrivé à un passage où j'ai été bloqué par les mécaniques du jeu, où il fallait que je fasse quelque chose de mécanique ou de puzzle solving, comment dire. On explore les scènes où plusieurs personnes sont mortes et il faut ensuite déterminer quelle personne et comment elle est morte. Et donc il faut identifier chacune des personnes qui étaient sur le bateau et dire comment elle est morte. Et donc on va avoir des indices, des trucs qu'on va mettre ensemble pour comprendre tout ça. Et ça nous permet d'identifier tout le manifeste du bateau. Et alors je suis encore au début comme je le disais, mais j'ai pu avancer dans l'histoire sans avoir à m'inquiéter de cette partie-là. Donc, j'ai presque l'impression que ça peut être fait comme un walking simulator qui va nous narrer les événements qui ont conduit à la tragédie du bateau. Mais il y a tout un aspect qui est... achronologique, genre ça, on voit des événements qui sont passés avant, puis après, puis avant, puis on s'est raconté avec ces scènes figées autour desquelles on peut tourner pour identifier toutes les personnes. Et puis il y a un petit peu de narration qui est lue par les acteurs de ces chaque scène. On a genre quelques secondes avant la mort d'un des personnages qui est joué par les différents acteurs, les personnages qui sont dans cette pièce à ce moment. Et la manière dont ça raconte le truc, moi, la raison pour laquelle je voulais en parler, c'est que j'ai eu vraiment une surprise en lançant le jeu, parce que j'ai eu l'impression, peut-être que j'ai mal écouté, mais j'ai eu l'impression que personne aucun des testeurs qui avaient parler du jeu, j'ai pas lu le test, j'avoue, mais écouter dans les podcasts et regarder sur YouTube, personne n'avait évoqué cet aspect du jeu. Et l'aspect narratif, pour moi, est vraiment intriguant. Donc, peut-être que ça pourrait intéresser d'autres auditeurs. Cet aspect-là, et en plus sa mise en forme, sont vraiment quelque chose de particulier, un petit peu comme le premier jeu de l'auteur, Papers, Please.
Papers, Please, ouais, c'est ouais. Lucas Pope.
C'est ça. Et Papers, Please même était moins agréable à jouer si tu... C'était tellement plus bare bones, c'était tellement plus dépouillé. Là, il y a une immersion qui est encore plus importante. Donc, je dirais pas une bonne surprise, parce qu'encore une fois, c'est pas un jeu pour moi, mais quelque chose de vraiment, vraiment intéressant, quoi.
Mais tu dis que c'est pas un jeu pour toi, mais pour quelle raison? Enfin, c'est parce que ce que j'en ai vu et ce qu'on m'en a beaucoup raconté, parce qu'on en parle le prochain QSD assez longuement d'ailleurs, c'est un jeu qui peut effectivement se finir très vite et assez facilement. Par contre, si on veut savoir exactement qui est qui, identifie toutes les personnes, c'est assez complexe, hein. Il faut vraiment, il y a beaucoup d'observations, de recoupements, etc. C'est un pur jeu d'enquête, vraiment au sens le plus littéral du terme, quoi.
Ouais, c'est même plus un jeu de puzzle, quoi. Il faut voir.
T'as pas des puzzles à la The Witness, tu vois, où tu dois essayer de comprendre dans le décor, voir, tel ou tel objet, tu donnes des indices, quoi.
Il faut voir, alors, telle personne s'appelle comme ça, on le sait parce qu'on a vu dans tel dialogue qu'il l'appelait tel truc. Et donc, elle dit, ah, mon frère est truc, donc on va chercher une autre personne qui porte le même nom. Ah, mais non, il n'y a pas, donc on va. Tu vois, c'est. Dans ce sens-là, c'est des puzzles dans ce sens-là. Et moi, ça me parle pas trop. C'est pas mon truc, quoi.
Ouais.
Donc, c'est pour ça que...
Il faut recouper tout, quoi.
Voilà, c'est ça. Il faut se poser. Il faut suivre toutes les informations, s'assurer qu'on n'en a pas raté une seule et tout recouper. C'est pour les gens qui aiment ce genre de truc, ça va être génial. Mais c'est juste que, bon, moi, je suis trop impatient pour ce genre de truc, je crois. Ce qui m'amène au deuxième jeu que j'ai testé, il y a le Black Friday Sales sur le PlayStation Network, et du coup j'ai acheté Shadow of the Tomb Raider, que j'ai pas encore eu le temps d'essayer, et Assassin's Creed Odyssey, dans lequel je me suis lancé. Et bon sang, qu'est-ce que c'est bien Assassin's Creed Odyssey. Franchement, j'ai entendu tellement de... Enfin, il y a plein de gens qui le trouvent bien, mais il y a aussi plein de gens qui en énumèrent les défauts, qui, j'en suis conscient et je le concède, sont bien présents. Mais j'ai presque l'impression qu'il y avait une sorte d'équilibre entre les défauts et les qualités. Et pour moi, vraiment, les défauts sont une très petite partie de l'expérience, et les qualités sont vraiment nombreuses. J'ai eu une super bonne surprise avec Odyssey. Alors que j'avais pas du tout accroché à Origins, ce qui est étrange parce que le jeu est presque le même. Je sais pas si c'est le cadre ou moi qui suis luné différemment, ou les éléments de gameplay qui ont été ajoutés qui font que moi ça me parle plus. Mais franchement, c'est un boulot incroyable, il a tellement de qualité, il est d'une beauté folle. Si on n'avait pas Red Dead Redemption 2 à côté, auquel je me suis vraiment intéressé, j'ai regardé avec une loupe presque, et je le trouve plus beau, Red Dead Redemption 2, mais enfin là, on a des étendues incroyables avec des arbres partout, des feuilles, enfin, c'est super beau. L'ambition du jeu est invraisemblable. Enfin, sur Assassin's Creed Odyssey, là, j'ai dû jouer, je ne sais pas, peut-être une quinzaine d'heures, 15-20 heures déjà. Et moi, je reprends ce que tu disais par rapport à Tetris Effect et Red Dead Redemption 2. J'avais l'option de jouer à Red Dead Redemption 2 ou Assassin's Creed. Et à chaque fois, je me suis dit, bon, bah, je vais jouer à Assassin's Creed, j'ai envie de m'amuser, quoi. Donc, ce qui ne veut pas dire que Red Dead Redemption 2 n'a pas... Bah, non, mais franchement,
je comprends ce que tu veux dire.
RDR 2, on en reparlera à un moment, mais...
Disons que là où Assassin, c'est une sorte de parc d'attractions dans lequel t'as pas le temps de t'ennuyer, Red Dead rock ça contre une ambiance unique et une sorte d'immersion que t'as pas dans Assassin.
Complètement. Et du coup, c'est très intéressant de jouer Assassin's Creed après avoir joué, je dirais, une vingtaine, trentaine d'heures à Red Dead. Tout a l'air tellement jouet. Dans Assassin's Creed, tout est un jouet. Red Dead, c'est un truc, je sais pas, où t'as l'impression d'être dans ce monde et tout est poussé vers le réalisme. Et oui, les trolls vont dire « Ah, mais regarde, tel bug, oui, mais c'est pas de ça qu'on parle. » Assassin's Creed, à côté, c'est plus qu'un parc d'attractions, c'est un jouet, quoi. Enfin, j'ai même du mal à décrire à quel point c'est comique de jouer à Assassin's Creed après avoir joué à Red Dead. C'est ce qui n'est pas une critique. Je veux dire, pour moi, Assassin's Creed est un meilleur jeu, le fun est beaucoup plus présent. En tant que jeu, si on peut séparer jeu et art, ce qui pourrait donner lieu à de nombreuses discussions interminables, mais Assassin's Creed est un jeu fun et je parlais d'ambition tout à l'heure. Dans le gameplay au quotidien, il y a des améliorations. Je trouve que l'écriture, l'histoire principale est vraiment intéressante et captivante et tout ça. Bon, l'écriture, j'irais au quotidien, ça reste Assassin's Creed, quoi. C'est quand même un petit peu bas du front. C'est pas le personnage Cassandra est hyper bien joué. Et donne vraiment du corps au personnage. L'actrice donne du corps au personnage, mais c'est vrai que l'écriture, voilà, c'est pas incroyable. On n'est pas dans justement Red Dead Redemption ou The Last of Us ou ces jeux hyper hyper narratifs. Mais il n'empêche qu'il y a un petit aspect RPG. Et quand je parle d'ambition, il y a système sur système sur système. Pour moi, Assassin's Creed s'est énormément inspiré de Shadow of War. Enfin, Shadow of Mordor et Shadow of War. Il y a tout un tas de systèmes qui sont, je pense, inspirés, adaptés de cela. Il y a à la fois des systèmes de Nemesis Light où on a des ennemis qui sont nommés, etc. Il y a les systèmes de siège où on va pouvoir affaiblir une zone et on va, enfin, vous en avez certainement déjà entendu parler, mais on va pouvoir affaiblir une zone avant de lancer une campagne de conquête qui va être une grande bataille épique. Enfin, il y a le système, je ne vais pas les spoiler, mais enfin, il y a encore genre deux ou trois autres systèmes en plus de ça qu'on découvre encore au bout de 15 heures ou 20 heures de jeu. Mais c'est une ambition incroyable, ce jeu. Et j'ai été hyper agréablement surpris parce que j'avais eu l'impression que, ouais, bon, tu sais, c'est un peu Origins Plus, ce qui n'est pas faux. Mais je n'avais pas compris à quel point il était... je sais pas, j'ai dit ambitieux 15 fois déjà depuis 5 minutes, mais c'est vraiment ça qu'on ressent, quoi. Et fun. Moi, je m'amuse du début à la fin dans ce jeu. Donc, il y a la question de l'XP. Je sais pas si vous vous souvenez, mais il y a une microtransaction pour 10 euros, qui fait qu'on peut acheter un boost d'XP pour avoir 50% d'XP en plus, qui vient forcément faire poser la question, est-ce qu'ils ont ralenti le truc pour encourager les gens à acheter ce boost d'XP? Jusqu'à maintenant, j'en ai pas du tout eu besoin. J'ai eu l'impression, à un moment, je me suis dit « Ah merde, je suis pas au bon niveau. Je devais tuer le leader d'une zone. Et la quête me disait « Attention, en rouge, il est deux niveaux de plus que vous. » Je me suis dit « Ah merde, il va falloir que j'aille grinder des quêtes annexes pendant 2 heures pour essayer de le... » Sauf que j'avais fait les autres quêtes entre-temps. Et j'avais tellement affaibli le mec, je l'avais vu en fait, genre 3 heures plus tôt, et il était entouré de 60, mais genre 5 mercenaires super forts, ils avaient tous des armures, machin. Je me suis dit, putain, 2 niveaux de plus, ça va être hyper compliqué, mais je vais quand même aller voir. Et j'avais tellement affaibli la région que du coup, lui, ça l'affaiblissait, et je suis allé vers lui, et je ne l'ai pas vu au début. Je ne l'ai pas vu, je me suis dit, mais merde, il est où? Qu'est-ce qui se passe? Et en fait, il avait la région économiquement et machin était tellement affaiblie que lui, le leader, c'était une sorte de clochard assis dans un coin, sans armure, sans personne avec lui. Ça a pris 2 coups d'épée, je l'ai massacré et c'était terminé, quoi. Donc là encore, peut-être que ça vient après, je suis genre niveau, je sais pas, 11, quelque chose comme ça. Peut-être que ça vient après, les problèmes d'XP, mais jusqu'à maintenant, je les ai pas du tout sentis. Donc, et ensuite, je comprends que ça soit un problème parce que si tu conçois le jeu de manière à ce que tu peux suivre la quête principale sans faire de quête annexe, du coup, le jeu et sa nature devient très différente. Et si tu conçois le jeu pour que les quêtes annexes, il soit nécessaire d'en faire quelques-unes pour continuer la progression, bah, c'est un jeu qui est beaucoup plus plein, beaucoup plus vaste. Et donc, est-ce que tu as fait ça pour pousser les gens à prendre le boost d'XP? Ou est-ce que... Enfin, je sais pas, ça pose la question, c'est sûr, le fait que cette microtransaction existe pose la question. Pour moi, ça me pose pas de problème encore, mais peut-être que ça viendra après. On en reparlera un moment pour les discussions de fin d'année, j'imagine, mais En tout cas, dans l'ensemble, pour les 15-20 premières heures, hyper positivement surpris par Assassin's Creed Odyssey. On verra si Shadow of the Tomb Raider me fera le même effet.
Ouais, ça c'est pas sûr. Bon.
Ouais, non, verra, c'est pas sûr. Ouais. Bon. On avance avec quelques petites news avant de conclure. Final Fantasy XV, au revoir les DLC. Tabata a quitté la société et il a lancé son propre studio, ce qui s'appelle Luminous Productions, dont d'ailleurs un artiste a mis sur son CV qu'il travaille sur un jeu PS5. Ok, merci. Mais enfin, surprenant. Final Fantasy XV, les DLC annulés. Enfin, Tabata s'en va. Ils avaient fait un stream pour parler de Final Fantasy XV, et les nouvelles qu'ils avaient, c'est « Bon, bah, on plie les tentes, on s'en va, merci, au revoir. » C'était un petit peu étonnant.
D'après ce que j'ai compris, c'est la cause de l'annulation des DLC, c'est le fait que Tabata s'en va.
Ouais, est-ce que les deux sont pas aussi liés dans le...
C'était dans ce sens-là que... Enfin, à mon avis, il y a eu une embrouille avec Tabata, il s'est barré, puis les mecs se sont dit « Bon, on va pas s'emmerder à remonter une nouvelle équipe pour faire les DLC. »
Ouais, enfin, si des Final Fantasy XV, ils en avaient vendu assez pour vendre assez de DLC, je pense qu'ils auraient trouvé quelqu'un pour remplacer Tabata.
Oui, voilà. Mais tu vois, il y a des années, genre, les DLC devaient pas se vendre suffisamment. Je pense que ça allait, mais que c'était pas exceptionnel. Donc, ouais. Voilà, autant réaffecter les gens sur FF16. Quoi.
C'est possible, ouais. Deux sorties, tiens, sur PS4, il y a Subnautica qui arrive le 4 décembre sur PS4, un des jeux que de nombreuses personnes ont recommandé, que je pense que je vais essayer, et Beat Saber, et trois fois même. Beat Saber qui arrive le 20 novembre, donc demain, au moment où on enregistre, sur PSVR par contre.
PSVR. Déjà dispo sur PC, hein, sur Oculus et Vive, mais c'est pareil. Excellent jeu,
mais il faut brancher la console. Moi, j'aimerais un moment.
Ça fait partie de ces jeux, comme on dit, c'est must have de la VR si vous avez
un casque. C'est ça, ouais. Mais avec d'ailleurs Astrobot Rescue Mission que je veux pas essayer non plus parce que rien que rebrancher mon PSVR avec la PlayStation 4 Pro qui n'a pas le HDR pass-through, donc il faut pas le. Donc je débranche mon PSVR, il est dans un placard.
Ah oui, c'est vrai.
C'est insupportable.
Mais mine de rien, il commence à avoir un bon petit catalogue sur le PSVR là. C'est quand même solide. Hein. Aujourd'hui, si je devais recommander peut-être un cadre en termes de catalogue, c'est peut-être le casque qui a peut-être le catalogue de jeux le plus intéressant. Quoi.
C'est possible, ouais. Et d'ailleurs, Astrobot Rescue. Ouais, vas-y.
Tout à l'heure, tu parlais de Tetris Effect. Moi, c'est un jeu qui m'intéresse énormément et je me dis que je vais attendre de m'acheter un casque pour en profiter dans les meilleures conditions possibles. Tu vois. Parce qu'effectivement, j'ai atteint ce stade où il commence à y avoir un catalogue sympa et je me dis que ça commence à valoir le coup de s'acheter un casque. Surtout,
et Subnautica est dispo en VR aussi, d'ailleurs.
Donc, compatible VR, ouais. Je l'ai passé en VR, mais le jeu est formidable sans le casque, déjà.
Bon, The Game Awards, les nominés, on va passer ça, on en parlera quand le truc sera arrivé. Thronebreaker, ça m'a paru intéressant. Thronebreaker, donc le jeu de Gwent de CD Projekt Red, ne s'est pas assez vendu selon CD Projekt Red. C'est marrant, hein, quand CD Projekt dit qu'un jeu s'est pas assez vendu, on leur tombe pas dessus comme on tombe sur Activision, mais bon, bref. C'est pas pareil. Bon, bref, on va pas repartir dans cette discussion. Non, c'est pas pareil. Mais il y a quand même des trucs qu'on dit jamais. C'est comme Bethesda. Bethesda, ils sortent Fallout 60, ils ont dit « Oh, quand même, vous exagérez !» Si EA avait sorti un jeu comme ça, comme je le disais tout à l'heure, on les aurait incendiés. Donc, il y a quand même deux poids et deux mesures parfois, et je le comprends, mais oui, c'est pas tout à fait la même chose. Ok. Oui, et donc c'était parce que Good Old Games a quand même une audience relativement restreinte, ce qui m'a paru intéressant parce que c'est vrai que souvent on dit « Ah, mais il y a des alternatives à Steam, machin ». Oui, mais en fait, non. Et d'ailleurs, Thronebreaker est maintenant disponible sur Steam aussi. J'imagine que c'était planifié, mais je pense qu'ils espèrent remonter un petit peu les ventes avec ça. Quoi d'autre, Devil May Cry, il y a une série animée qui arrive, d'ailleurs dans le Bootleg Universe qui inclut Castlevania, bon c'est le producteur qui a dit ça, je crois que c'est pas tout à fait accepté par les ayants droit. Quoi d'autre ? Ah, tiens, si, il y a un truc dont je voulais parler en conclusion. Est-ce que vous avez vu le trailer de Détective Pikachu ?
Oui. Eh ben, écoute, non, moi, j'ai vu beaucoup de gens sur Twitter réagir. J'ai plus vu de gens réagir que le trailer, mais je n'ai pas encore regardé.
Il faut quand même le regarder.
Écoute...
Oui, je vais rattraper ça.
Oui, franchement... Moi, alors, n'étant pas fan de Pokémon à la base, donc ça te parle aussi, JK, franchement, j'ai été hyper amusé et je crois que j'ai envie de voir ce film. C'est hyper difficile de faire un film live action avec un Pokémon, avec des Pokémon. Et là, ils ont un ton à moitié humoristique, à moitié mignon, qui va parler aux adultes parce que c'est un petit peu de second degré. Je crois que ça peut être pas mal, franchement. Vraiment. Et peut-être que je vais me faire incendier pour ça, mais je pense que ça peut être marrant. Donc voilà, moi j'irai regarder Détective Pikachu, et voilà. C'est particulier, hein, faut aller regarder. Et je crois que ça va être tout pour cet épisode. On a fait encore une fois un petit peu long, et je sais que vous m'avez accordé beaucoup de votre temps, donc je vais vous laisser partir. Mais avant ça, bien sûr, JK, est-ce que tu pourrais nous dire où on peut te retrouver sur l'Internet ?
Sur Internet, écoute, sur deux, trois endroits comme ça, à droite, à gauche, au détour d'un site web, sur lesnumériques.com, hein, au quotidien pour des sujets hardware, informatique, jeux vidéo, voilà, un peu tout ça. Dans le podcast Les Numériques aussi, une fois par mois, hein, je fais ma petite pub, mais on a sorti le dernier numéro la semaine dernière. On parle de transport du futur, on parle du MacBook Air, du dernier iPad Pro, voilà. Et sur ZQSD, bien entendu, dans le prochain numéro qui va sortir, d'ailleurs, on parle assez longuement de Obrazin, donc, Patrick, si tu veux un test, une critique qui parle de la partie narrative d'Obradine, bah, il faudra écouter cette QZ.
Très bien, je ferai ça. Ça marche. Merci, Jika. Et Oscar, je sais que tu as des choses en cours aussi.
Oui, moi sur Gamekult, j'ai une chronique hebdomadaire cette semaine. Ça devrait être sur les résultats des éditeurs dont on a un peu parlé dans cette émission. Puis sinon, sur Ludostri. Donc j'ai sorti une critique de Red Dead il y a quelques jours, qui est en accès libre, puisque le site dans son intégralité n'est pas en accès libre, mais les critiques sont en accès libre. Il y aura normalement un article aussi qui va sortir cette semaine, qui va aussi être en accès libre à l'occasion d'un anniversaire qui aura lieu mercredi, j'en dis pas plus. Mmh. Et puis là, je bosse à fond sur le prochain gros... le prochain feuilleton, qui là sera en accès payant, voilà, je sais pas si je vais réussir à le sortir à temps, puisque c'est aussi à l'occasion d'un anniversaire, mais je suis à fond dessus en ce moment, quoi.
Très bien, bon, voilà. Bah, beaucoup de choses. Et tout est lié à ton compte Twitter, dont les détails seront dans les notes de l'émission. Merci beaucoup JK, merci beaucoup Oscar. Pour ma part, c'est NotePatrick sur Twitter, Facebook et Instagram. Vous pouvez aussi retrouver le rendez-vous jeu sur frenchspin.fr où il y a aussi le rendez-vous tech que vous pouvez suivre aussi si vous voulez des infos sur les news tech toutes les semaines. Et si vous voulez nous dire ce que vous pensez de ce qu'on a dit dans cet épisode, n'hésitez pas à venir laisser des commentaires sur frenchspin.fr sur l'article de cet épisode. On vous remercie beaucoup de nous avoir écoutés et on vous donne rendez-vous dans deux semaines pour encore plus de jeux vidéo tri. À dans deux semaines. Ciao ciao.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Kyler Tsedis.
Kayla-
Kayla Itzinas.
I'm Kayla Itzinas, and I have been training a global community of women since 2009. I've created a brand new podcast, Sweat Daily, to help you level up your life and reach your health and well-being goals. From fitness tips to food that fuels you, meditation to motivation, we've got you covered. Sweat Daily, the happiest, healthiest, and most confident version of you awaits. Available on Apple Podcasts and wherever you get your podcasts.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.